Allez, bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit Irlandais, assez impressionnant. Et aujourd'hui, on parle de quoi? On va être obligé, c'est aujourd'hui cette expression, on va être obligé de revenir sur cette cruelle défaite. À Lens, c'était samedi soir, et pour ce faire, j'ai deux invités. Jean-Charles de Bonneau, bien bronzé.
Salut Nico, c'est ce que j'allais te dire, toi aussi tu es bien bronzé.
Et moi je reviens de Corse,
j'ai eu des belles vacances.
Quelle chance.
Ah oui, c'est... Très très beau, très, très, très beau, je sais même pas si c'est un département français, faux département français, j'ai dit Outre-mer. Gaël Biro, la Marseillaise, comment ça va?
Ça va, bien bronzé aussi, bien bronzé, aussi. Mais les Canaries, tout ça ces derniers temps, donc voilà, je crois qu'on est
les Canaries, puis bon, ouais. Toujours dehors parce que multisport, ouais, peu, toujours en train de courir.
À droite à gauche.
À droite à gauche.
Quoi. Ouais, voilà.
Merci d'être là Gaël.
Merci.
Et mon jongleur préféré, ouais. D'avoir Ryan est là.
Moi on me voit pas, je suis pas très bronzé, je suis un peu... Ouais. Un geek dans les cavernes, quoi.
Donc, il faut sortir de la cave maintenant.
Ouais, un peu blanc, mais les beaux jours arrivent. Donc,
c'est vrai, c'est vrai. Voilà, peut-être ah bah là, aujourd'hui, on se croirait l'été. Hein.
Exactement, c'est vrai. Mais on est obligé de travailler. Donc, voilà. On est quand même là avec vous pour ce jour férié, comme tu dis. Donc, si vous voulez participer à cette émission, bien sûr, comme d'habitude, question 2 points sur les différents chats sur Twitch, sur YouTube. Je sais qu'il y a un petit souci avec le micro de Nico. J'essaie de régler ça. Il y a encore toujours ce petit bruit de fond que j'arrive pas à retirer.
On a du bruit de fond.
Ouais. Je vais essayer de gérer ça. T'inquiète. Mais si vous avez des questions, du coup, n'hésitez pas. Question 2 points. Continuez aussi à vous abonner. Merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait récemment. On a dépassé aussi les 12 500 sur Twitch. Merci au sub aussi, merci à Sunzu, merci à Nvidia, merci à Rasta, merci à Lucanier, et merci à OROM aussi qui avait renouvelé son 8e mois. Donc voilà, merci beaucoup à tous ceux qui nous soutiennent de cette façon. Et puis voilà, on se dit à tout à l'heure pour la fac.
Tout à fait, enfin, en fin d'émission, question 2 points, n'hésitez pas. Et tout de suite, on va commencer par le décrassage. Et avant de revenir sur ce match-là, on va quand même remercier notre sponsor pour cette émission. C'est bien sûr nos amis avec le Lawnmower Manscape, ce petit engin qui permet donc pour Jean-Charles et moi de pouvoir un petit peu tailler cette calvitie. Mais par exemple pour Gaël, c'est pour
la barbe un peu, non?
La barbe
le
plus bas.
Le torse, non?
Plus bas, plus bas. Des bijoux de famille, tu vois, si tu veux être un petit peu aéré avec ces périodes un peu chaudes.
Très bien.
Le Lawnmower, tu peux l'utiliser sous la douche.
Je prends.
Tu prends. Tu vois, c'est des Américains, tu sais, ils sont cultes du corps. Mais t'es pas obligé, même si t'es pas là-dedans, on peut pas tous faire 180 kilos de muscle, quoi. Tu vois, non, c'est de la bonne qualité. Ça vous permet donc de l'utiliser partout. C'est skin safe si on fait les anglicismes. Le Lawnmower 4.0. Ils font aussi des caleçons, ils font plein de choses. N'hésitez pas à aller sur le site, surtout que vous avez quand même un petit avantage avec le code promo FCM. Vous avez 20%, je crois. Je me mélange les pinceaux.
C'est ça, 20%.
C'est ça, 20% de remise et les frais de port offerts. Donc, si vous avez un cadeau à faire pour un papa, un grand-papa.
Pour la fête des pères.
C'est quand la fête des pères, c'est ça. Ouais.
Ah, c'est bientôt.
Eh oui.
Et voilà, pour la fête des pères. Lawnmower 4.0.
C'est le moment ou jamais.
Voilà. Jolie boîte, il y a des petits accessoires sympas. Donc n'hésitez pas, c'est notre sponsor, ils nous font confiance, vous pouvez leur faire confiance. Le lien est en dessous et on va tout de suite passer au football. Avec cette défaite à 4 matchs de la fin de la saison qui commence un peu à nous stresser.
Quelle est ton analyse à froid, Jean-Charles, 48 heures après cette défaite?
Écoute, ce qui me vient déjà à l'esprit, c'est beaucoup de regrets pour cette rencontre parce qu'on avait très bien débuté le match, notamment cette première période où on aurait pu... peut-être être devant au score.
Klos a des occasions en particulier.
Klos a des occasions, le but refusé, l'animation, l'OM qui pressait très haut, qui empêchait cette première sortie de balle des Lensois, qui était pour moi très perturbé sur cette première période. Et l'OM aurait pu faire peut-être la différence pour essayer de se mettre un peu plus à l'aise pour la seconde période, sachant qu'il y a eu des blessures, des changements, des faits de jeu qui ont été à l'avantage plutôt des Lensois que des Marseillais. Mais ce qui est dérangeant après, c'est cette deuxième période où on passe dans un autre domaine de jeu par rapport à la première mi-temps où l'OM était bien et en deuxième on passe, je dirais, dans le mauvais sens. Et ça a permis à Lens de revenir. On connaît le public, on connaît la ferveur de cette équipe qui part dans tous les sens, qui a toujours très confiance en elle et qui peut à tout moment déclencher quelque chose de surprenant. Ça a été le cas notamment avec Fofana, cette frappe sur le montant et puis après... ce magistral but, parce qu'il faut aussi dire que ce but est merveilleux et que Paulo Lopez ne peut rien faire. Mais voilà, après, il y a des satisfactions. Et il y a aussi des joueurs qui m'ont un petit peu déçu dans cette rencontre. On en reparlera. Mais je pense qu'il faut quand même garder en tête cette première période où l'OM avait mis les ingrédients pour remporter cette rencontre et surtout pour aller lutter chez ces Lensois qui n'ont jamais perdu d'ailleurs sur leur terre. Hein. Ils ont, je crois, trois matchs nuls et tout le reste, c'est des victoires. Donc voilà, il n'y a pas à rougir. Il y a plus, je pense qu'il y en a un qui devrait rougir, c'est quand même l'arbitre.
On va en parler, je pense. Quelle est ton analyse, sachant que Seko Fofana a quand même dit que sur les deux matchs, l'OM méritait peut-être de les gagner, ces matchs-là.
Moi, j'allais parler aussi, en effet, du match aller, parce qu'en fait, finalement, tu sors de cette saison avec 0 point contre Lens et contre Paris. Mais contre Lens, tu fais deux matchs où tu n'as pas à rougir. Au Vélodrome, tu domines. Ça ne veut pas dire que Lens est mauvais, d'ailleurs, aussi. Mais voilà, tu fais deux matchs de très haute facture contre Lens. Lens, c'est aussi deux matchs de très haute facture, mais je pense que sur l'ensemble, en fait, à chaque fois, tu n'as pas les circonstances pour toi. Balerdi disait avant le match retour, j'espère que cette fois, la chance sera de notre côté. Bah non, la chance, elle n'a pas été du côté des Marseillais. Donc, après, oui, on pourra revenir, en effet, sur ce qui n'a pas marché côté Marseille, parce qu'il y a quand même des choses, donc on va parler de Malinovski, etc. Mais c'est vrai que la première chose qu'on retient, c'est peut-être le fait du match arbitral, puis après les blessures aussi qui n'ont pas aidé.
Justement.
Sur le reste, après, voilà, moi je rejoins Jean-Charles quand il dit qu'il y a une deuxième mi-temps un peu différente, mais en fait, je pense qu'on était vraiment dans un match où chaque équipe a gêné l'autre. Au début, ça a plus été l'OM, et sur la deuxième, ça a plus été Lens, mais voilà, quoi, c'était. En tout cas, c'était un très beau match, en tout cas très intense. Voilà. Peut-être pas spectaculaire, mais très intense. Quoi.
Je pense que ces deux matchs, Lens-OM-OM-Lens, ça a été les deux plus beaux matchs de la saison. Peu importe les supporters de quelle équipe ils sont, de Lorient, de Nantes, peu importe. Mais quand on regarde l'Olympique de Marseille et que l'on regarde cette équipe lensoise, on s'assoit dans notre fauteuil, sur notre canapé, on se dit on va prendre ce soir du plaisir à avoir une vraie rencontre de football. Je pense que c'est du haut niveau. Moi, c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est-à-dire que ces équipes-là cherchent toujours d'abord les joueurs, l'entraîneur, à faire plaisir, à se faire plaisir soi-même, et surtout essayer de donner le plus beau visage d'eux-mêmes. Quoi. Et c'est ce que ça a été fait face à Lens. Malheureusement, après, on a un petit peu basculé dans nos travers en deuxième période, parce qu'on a peut-être joué avec des éléments différents, et il y a eu des changements qui auraient dû être faits un petit peu avant, des blessures. Mais voilà, je pense que cette équipe-là n'a pas à rougir. Mmh. Il ne faut pas qu'elle rougisse, parce que sur le championnat, sur la longueur, on a quand même vu du spectacle cet Olympique de Marseille.
Quel est ton fait du match? Justement, tu parlais des faits de jeu, mais est-ce que tu as un fait de match que tu retiens un peu plus, Gaël?
À froid, parce que forcément, sur le coup, on a tous analysé plein de choses. À froid, ce qui reste, c'est forcément ce but annulé pour Alexis Sanchez. Non pas de dire qu'il n'y avait absolument pas faute, mais que il y a une interprétation qui a été faite au début à l'avantage de l'OM, puis qui finalement un peu été annulée par la VAR. Ça me semble quand même être le gros tournant dans un match aussi serré, en fait. Où
le fait d'ouvrir le score à l'extérieur, ça aurait changé la physionomie du match, forcément.
Oui. Voilà, donc après, en effet, on pourra revenir sur tout, on reviendra sur les remplacements, les remplacements forcés, les remplacements qu'on aurait dû faire.
Et la blessure de Gigot, celle de Sanchez, c'est deux blessures
exactement. Mais je pense que ce qu'on retiendra, et ce qu'on retient déjà deux jours après, c'est quand même ce but annulé pour peu de choses, quoi.
On va en parler après Turpin, j'ai quelques stats. Quel est ton fait du match, Jean-Charles?
C'est vrai que celui-ci est hyper important parce qu'il arrive à la 8e minute de jeu où l'Olympique peut déclencher une autre façon de jouer, parce que quand tu encaisses un but chez toi, être mené chez toi par le deuxième au classement, Lens aurait été obligé de jouer différemment. C'est-à-dire que les opportunités pour l'Olympique de Marseille auraient été autres que celles qu'elles ont été. Et ça change totalement la rencontre du jeu. Et peut-être aussi la victoire, ce qui a permis à Lens de se donner un deuxième souffle et de re-rentrer dans la rencontre. Après, c'est vrai qu'il y a les blessures. Et surtout ce carton rouge. Comme il a dit Igor Tudor, si tu as les couilles de ne pas siffler le but, tu siffles le carton rouge derrière. Puisque tu refuses le but.
Deux cartons jaunes.
Donc, à partir de ce moment-là, tout est faussé. Bon, après, je ne parle pas des blessures de nos deux joueurs qui sont
des leaders
d'équipe, parce que défensivement et offensivement, parce que Sanchez devant, franchement, le temps où il est resté sur le terrain, les défenseurs lensois, ils ont passé une soirée qu'ils n'ont pas passée de toute la saison. Parce que les contrôles orientés, le pressing fait, d'ailleurs, sur le but marqué par Sanchez, c'est ce pressing. Alors, Abid Bey, il a bien expliqué. C'est vrai, quand on est défenseur, on a souvent tendance à vouloir protéger son ballon, mettre son cœur en opposition.
Ouais. Et mais si tu le fais, contact, tu te laisses
tomber. Après, tu te laisses tomber. Donc, en voulant jouer un petit peu de cette façon-là, son jeu à lui, défensivement, quand tu fais ça, il faut que tu sois sûr de ton coup.
C'est ça.
Et là, il n'a pas été sûr de son coup.
C'était un peu grossier, quoi.
Dans en fait, donc, c'est là où je dis que franchement, l'arbitre a pris une décision, pour moi, qui n'était pas normale. Il aurait dû laisser jouer et marquer ce but à Sanchez, parce que, pour moi, valable, parce qu'à partir du moment où tu as le défenseur qui cherche la faute sans qu'elle y soit véritablement, et qu'il joue, qu'il se sent sécurisé. Ils sont, parce que c'est un sacré
gabarit. Hein.
Danso, il faut se secouer. Ouais. Il n'est pas tombé parce qu'il a poussé Sanchez. Il se laisse tomber. Et qu'il refuse ce but, franchement, c'est...
C'est dur.
Il y a tant de choses, des changements un peu trop tardifs.
C'est vrai qu'il a beaucoup attendu. Dans ce creux, en plus, en deuxième mi-temps, il y a un creux, là, comme ça, là, après le deuxième but lensois. On sent que ça, c'est un peu attentiste.
Ça ronronne, oui, voilà, ouais, tu te dis.
En fait, tu te cherches. Tu es en échec.
Tu n'es pas largué, mais tu es en échec.
Tu te dis, mais attends... On est là, on n'est pas là, qu'est-ce qu'on doit faire ?
L'équilibre,
ce laps de temps,
et c'est là où il aurait dû changer.
Et oui, mais ce laps de temps permet à Lens de se reconstruire, en fait. De se dire, hop, là, nous, on est bien. L'Olympique de Marseille, malheureusement, ils ont des blessures, ils ont des changements à faire. Ils n'ont pas été faits au bon moment, peut-être. Hein. Peut-être que ça avait été fait avant, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose. Mais je pense que ça aurait apporté autre chose sur ce qu'on a vu sur la fin de la rencontre.
Est-ce que tu as man of the match côté Marseille ? T'arrives à en sauver un dans cette équipe ?
Il y en a à sauver là, comme ça. J'étais plutôt sur les pas man of the match.
Non, garde ta merguez pour après.
Man of the match. Je passe mon tour, je réfléchis si Jean-Claude, Jean-Charles a une idée volontiers.
Alors franchement, moi qui l'ai assez critiqué, quand d'ailleurs à juste titre, hein, Balerdi qui était sur des erreurs, sur des mauvais coups, qui par moment passait au travers. Là, sa rentrée.
Je pensais pas que tu aurais du bal à
l'arrière. Ah, ben oui, mais cette rentrée n'a pas déstabilisé du tout.
C'est vrai.
Je trouve qu'il a été très bon dans les duels.
Il est tranchant, même.
Qu'il a été, je dirais, efficace sur l'agressivité. Parce qu'il fallait se taper au Penda, quand même. Et lui, il a secoué. Sans faire de faute inutile, je trouve qu'il a été bon dans les relances. Franchement, son entrée, pour moi, a été remarquable. Je ne suis pas fan. Mais je l'ai assez critiqué quand
on peut le critiquer. Mais là, c'est vrai qu'il fait une bonne rentrée. Il y a un milieu de terrain qui était pas mal aussi.
Oui.
Rongier, moi, je pense que Rongier, alors, on va parler de Turpin, mais je pense qu'à un moment donné, il est pas loin du rouge. Il se prend un jeune qui est totalement mérité.
Il
n'est pas derrière défenseur.
Non, mais bon, il fait une faute. Il casse la
tronche. C'est jeune.
C'est très, très jeune.
Si tu commences à mettre des rouges là-dessus.
Non, mais je dis juste
qu'à jouer à Turpin est invendu. S'il a été vendu, je pense qu'il sortait le rouge.
En tout cas,
je pense qu'en effet, Rongier a énormément compensé, comme d'habitude. Donc, on le souligne même plus, mais c'est vrai, il faut noter que Rongier, pour moi, était présent.
Il fait la passe D aussi.
Et puis après, moi, je sauverai, sur ce premier quart d'heure là où l'OM domine et où il mérite de marquer, justement, j'ai bien aimé Kolasinac parce que finalement, j'ai trouvé dans ce couloir gauche là où Tavares, on n'arrive plus à savoir ce qu'il est. Et avec Malinovski qui a été inexistant, moi, je trouve que ce premier quart d'heure, l'OM attaque à gauche. Et en fait, c'est assez paradoxal vu qu'on a deux joueurs qui sont plus, je trouve, dans le tempo. Et je pense qu'il me semble que c'est Kolasinac en fait qui assure vraiment de ce côté gauche et ce premier quart d'heure qui impulse un peu la dynamique de l'OM.
J'ai trouvé intéressant aussi. Est-ce que tu as une merguez, Jean-Charles ? Ou plusieurs, hein ?
Pour moi, la merguez, Malinovski. Franchement, déjà, dans la compo, je ne pensais pas qu'il allait être titulaire.
Moi, je trouvais ça intéressant de le tenter. Après, ça n'a pas marché parce qu'il n'a pas été bon, mais...
Ouais, mais bon, ça fait un petit moment qu'il est pas bon.
Il jouait plus là, ces derniers temps.
Ouais, mais il jouait plus parce qu'il était pas bon.
Ouais.
Donc, il y a des raisons aussi, tu vois. Donc, j'ai été assez surpris qu'il soit titulaire et que Tudor puisse le mettre. Pourquoi ? Il a ses raisons. Nous, sur la rencontre, on peut juger son match, sa prestation.
Manque de justesse.
Et je trouve que là, il a pas été bon dans tout ce qu'il a voulu entreprendre.
Trop de déchets.
Malinovski, première mi-temps, je crois qu'on le voit deux fois en gros plan. Et deux fois, en fait, c'est pour s'excuser auprès de ses coéquipiers. Il joue deux très mauvais ballons. Le reste, il n'est pas là. Voilà.
Les contrôles ratés.
Voilà, c'est ça. Donc, à chaque fois qu'on le voit, il s'excuse. Mais on se dit, c'est pas possible. Donc, Malinovski, en effet, gros problème. Et puis, gros problème qu'on ne l'ait pas changé certainement plus tôt, en fait. Voilà.
Je suis d'accord.
Après, moi, je trouve qu'on parlait de Klos. Je trouve que première mi-temps, Klos a eu des occasions, mais a pas fait de bons choix, je crois, qu'à un moment donné.
Au moins, il a des occasions, j'ai envie de te dire.
Oui, voilà, exactement. C'est pour
mais
ça que je le mets après.
Chose, en fait,
il crée quelque chose. Mais dans un match comme ça, je trouve que Klos a fait les mauvais choix.
Il mange la feuille de match. Et si tu regardes les deux derniers matchs, contre Lyon, il dit heureusement qu'on le gagne ce match parce qu'il s'en voulait. Lui-même, il dit ça. Et le dernier match contre Auxerre, c'est pareil. Il en rate 2-3 parce qu'il fait la mauvaise passe ou le mauvais choix. C'est récurrent, là, ces derniers
matchs. Par contre, il est toujours dans les bons coups.
Oui, c'est ça. Oui, c'est la différence avec
Malinovski. Donc, ça veut dire qu'il revient petit à petit. C'est ça. Et que sa fraîcheur, peut-être, je ne veux pas trop le défendre, parce qu'il a mangé des ballons qu'il n'aurait pas dû manger sur la finition, notamment. Mais sinon, dans l'engagement, dans la complicité,
sur les appels,
les solutions qu'il peut donner à ses partenaires, il est bien présent. Mais moi, je rajouterais quand même Under. Under, quand même.
Transparent.
Alors, il faut dire ce qu'il y a. Sanchez, il n'a vraiment pas été aidé par Under.
Mais Under, ces derniers jours, il a été décisif. Ouais. C'est vrai que sur ce match-là, mis à part la petite passe qu'il fait à Klos, justement.
C'est ce que j'allais dire.
Mais mis à part ça, il n'a pas existé dans ce match. Ce qui est rare, d'ailleurs.
J'ai vu les notes ça et là depuis deux jours. Je vois Jean-Charles qui en parle. Moi, j'étais moins critique envers Under, quoi. Et surtout, en fait, de manière globale, en ce moment, il manque peut-être un facteur X à l'OM. Un Harit. Gendouzi, je dirais pas que c'est un facteur X, mais enfin, il est capable d'être partout. Voilà. Payet, pareil. Et finalement, il n'y a pas de facteur X. Malinovski, on attend toujours qu'il nous déclenche une frappe à 40 mètres et qu'on dise ah, ça y est, c'est un facteur X. Mais il y avait un peu Tavares, qui est un peu disparu. Mais finalement, enfin, s'il n'y a plus Under dans cette équipe, le danger, il vient de quasiment nulle part.
Sur ce match-là, il n'a pas trop existé.
Mais une fois ou deux.
Vous avez oublié quand même mon préféré.
Non, mais je sais ce que tu vas dire, oui.
Bah oui, Nuno Tavares. Ah oui, match encore.
Ouais, mais bon, il y en aurait quelques-uns quand même.
Il a essayé.
Malheureusement, même en faisant une performance en première période assez bonne.
Ouais, mais Jean-Charles, tu vois.
Mais
Tavares, physiquement, il est au-dessus de la moyenne. Parce que sur les contacts, il va super vite en course. Techniquement, il y a des fois, il fait des gestes, des dribbles incroyables. Mais le final, c'est zéro bonne passe, cuit football d'huître. Et le deuxième but, il est pour lui. Je suis désolé. Le deuxième but, il est encore en train de rêver. Ça part dans son dos, il se fait un peu bouger et le centre est but.
Oui, il s'embrouille, il s'embrouille pour rien.
Si lui, il dort pas, il n'y a jamais de centre sur cette action-là.
Mais j'arrive pas à saisir.
Ce joueur-là, moi, je ne le comprends pas.
En fait, il est pétri de qualité.
Oui, mais il ne sait pas les utiliser.
Il a tout pour être un grand joueur, mais il y a un problème qui me dérange chez lui. Ou il ne réfléchit pas.
Il ne réfléchit pas.
Ou alors, il se dit, tiens, moi, pour moi, le football, je joue comme dans la rue. Voilà, c'est je fais ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de faire moi, personnellement. Je suis bon, je suis pas bon, mais tant pis.
C'est un peu ça.
Mais voilà, tu vois, il joue comme il a envie de jouer, lui, personnellement. Les consignes ne les intéressent pas. Parce que, bon, comme une fois, il le rappelle sur le banc de touche, notre ami Tudor à Tavares, quand il ne fait pas les efforts pour venir ou qu'il est mal placé. Mais c'est incroyable.
Il avait été sur le banc plusieurs fois. On se disait là, il fallait qu'il remonte quelque chose, mis à part quelques fulgurances qui ne servent à rien au final. Qu'est-ce qu'il a montré sur son
champ ? Mais t'imagines le talent qu'il peut avoir et comment il se sabote.
C'est pour ça que c'est frustrant.
C'est quand même incroyable.
Ouais, c'est vrai.
Il y a tant de joueurs qui aimeraient avoir sa puissance, ses frappes de balle, ses dribbles, cette vitesse. Mais
et lui,
la détente. Ouais. Mais, et le gars, il met rien en valeur, en fait.
Et tu sais qu'il y avait une pub quand j'étais jeune, c'est sans la puissance, sans la maîtrise, la puissance n'est rien.
Ah ben absolument.
Ça résume totalement ce que je pense de Tavares. Le mec, il est pétri de qualité. Mais il ne sait pas utiliser, il fait toujours les mauvais choix, et puis il disparaît dans les matchs. Il y a des moments, il erre sur la pelouse, il reste hyper haut, tu sens que le défendre, ça ne l'intéresse pas.
Ah non, mais
c'est chaud, quoi.
Mais ça remet en perspective aussi le rôle de Kolasinac depuis le début de saison.
Oui, complètement.
Voilà. Je veux dire, ce mec-là, on en parle peu. Quand il est arrivé, c'était compliqué. Ouais. Il fait une très, très grosse saison. Et que ce soit en défenseur gauche ou quand il est amené à dépanner en piston gauche, il est fiable. Et en défenseur gauche, je pense que Tavares lui doit beaucoup dans les grands matchs qu'il a pu faire. Quoi.
Ah, je suis d'accord.
Là, il n'a pas sauvé. Mais
comme dit Ribalta ou Longoria, c'est un joueur exemplaire, Kolasinac. C'est un mec qui travaille à l'entraînement, qui respecte les consignes du coach, qui est toujours là. C'est vrai que j'aurais pas mis une pièce dessus après les 6 premiers qu'il a fait.
Tu sais, souvent, les joueurs qu'on dessine en fait comme bourrin, entre guillemets, des puissants, grosses frappes, des mecs qui rentrent dans l'adversité.
Gigot aussi, en début de saison.
Mais j'allais te parler de lui, justement, de Gigot et Kolasinac. On se dit, mais ces joueurs-là, ils sont limités pour jouer à l'OM. Mais tu te rends compte que ces joueurs plus physiques, plus gagneurs, sont bien meilleurs que les joueurs très techniques.
Il faut les deux, en fait.
Mais en fait, eux, ils ont toujours leur épingle du jeu à sortir parce qu'ils sont toujours présents, parce qu'ils aiment le combat, parce qu'ils ne relâchent jamais, parce qu'ils sont dans le bon état d'esprit. Et moi, je préfère avoir des joueurs comme ça, quand tu leur donnes une consigne qui la respecte, plutôt que d'avoir un joueur technique qui va jouer Le Ben Arfa qu'on a connu, un exemple, tu vois. Le mec est capable de te faire gagner le match à lui seul et de ne plus le voir pendant trois matchs derrière. Donc, moi, quand tu es joueur ou partenaire de ces joueurs-là, c'est dérangeant quand
même. C'est énervant.
Après, je pense que tu le sais mieux, tu le sais mieux que moi, mais je pense qu'à l'OM, on a toujours aimé les deux, c'est-à-dire les bourrins, les mecs qui assurent, qui sont là, qui mouillent le maillot. Et puis après, on a toujours aussi aimé les artistes. Hein, voilà, et il faut que trouver le,
il faut les deux trouver aussi, le truc entre les deux. Parce que des fois, c'est l'artiste qui va te sauver d'une situation. Ouais.
Mais l'artiste, tu vois, qui disparaît pas trop souvent quand même.
Bien sûr, bah, on est
qu'un artiste, dans un match, un artiste,
on veut pas un intermittent
spectacle. Il illumine chaque fois une ou deux actions. Là, c'est plus le cas, tu vois. On n'a plus cette flamme qui illumine. Tu dis, oh là, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, d'un coup, les yeux, ils sont comme ça, et tu te dis, oh, ce soir, lui, il est bien, il va nous faire quelque chose.
C'est vrai. Allez, on devait un peu voir la déclatudeur, mais t'en as parlé, on ne va peut-être pas refaire ça. Mais... c'est pas un problème. Je voulais juste vous donner quelques stats de notre ami Monsieur Turpin. ça résume un petit peu quand même.
Je vais boire un coup, hein. Parce que je vais avoir besoin de parler, je pense.
Du CBD. ça, c'est son œuvre, parce que c'est une œuvre complète. Donc, Turpin, Monsieur Turpin, pour rester respectueux, pour autant, c'est 41 matchs de l'OM arbitré pour seulement 13 victoires, 9 matchs nuls et 19 défaites. Donc, ça, c'est déjà un premier truc intéressant. Alors, les gens vont dire, oui, mais c'est normal, à chaque fois que l'OM joue contre des grosses équipes,
oui,
Monsieur Turpin, c'est pour ça que tu perds.
L'international, Monsieur Turpin.
Bon, quand tu vois comment il habite les matchs.
Non, mais c'est pour ça que j'allais en venir. Le Bayern, c'était beau. C'était
le mec qui ne comprend rien au tempo du football. Bref. Et la stat qui est pas mal, c'est si on prend Lyon et Paris et l'OM par rapport au pénalty qu'il a donné. Donc, Lyon, c'est 11 pénaltys en 47 matchs. Paris, c'est 17 pénaltys en 53 matchs. Et l'OM, c'est 6 petits pénaltys en 41 matchs. Donc, on voit aussi qu'il y a aussi une proportion. Ah oui, parce que l'OM ne provoque pas assez. Non, mais. On pourrait, j'ai vu qu'il y a des mecs qui ont fait des threads sur Twitter avec toutes les erreurs de Turpin. Il y a des contentieux avec les arbitres. Moi, je suis pas dans le délire, il est vendu ou quoi que ce soit. Mais il y a des arbitres. Je sais pas, peut-être qu'ils aiment pas le stade ou tu peux faire une psychologie quoi. Ou alors vu qu'ils jouent beaucoup contre le PSG,
ils vont toujours. Qu'il est détesté par les joueurs, par le club, par. L'ambiance d'un stade par qui va se faire insulter, mais attention, il y en a qui pensent à tout ça. C'est comme les joueurs qui arrivent dans un stade, ils savent qu'ils vont se faire insulter. Regarde Guendouzi, à chaque fois qu'il touchait le ballon à Lens.
C'est incroyable, qu'est-ce qu'il a fait à Lens, Guendouzi?
J'ai pas compris, là. Ouais. Moi, franchement, j'étais devant mon téléviseur, j'ai dit, mais pourquoi on le siffle? Pour quelle raison? Qu'est-ce qu'il a fait à Lens?
Il a dû aller bouffer de mitraillette à Lille, ça leur a pas plu.
J'ai pas compris du tout, quoi. Ce qui est dérangeant chez M. Turpin, c'est chaque fois qu'il nous arbitre, il joue un rôle. Comme il fait beaucoup de théâtre.
Oui, le petit cowboy.
Tu sais qu'il fait du théâtre quand même.
Non, je sais pas.
Il monte sur les planches, il donne des cours de théâtre. Et, et là, je trouve qu'il joue un rôle. Il joue ce rôle-là.
Il fait le rôle de la brave M, je
crois. Tu comprends, il est là, c'est le professeur. Donc, j'ai raison à tout moment, toi, tu as tort. Et moi, ce que je dis, eh ben, c'est vrai. Tu vois, donc, il se sent supérieur, en fait. Il se dit, pourquoi moi, je vais aller voir la VAR? Je suis sûr d'avoir raison.
Sauf là.
Bah oui, mais sauf là, justement, là.
Il allait voir la VAR.
Et justement, pour nous refuser le
alors but. Que le match au PSG, le match aller, où il y a deux pénaltys sur Klos.
Pas besoin de VAR.
Là, la VAR, putain.
Non, mais ouais, tu vois, c'est... Alors, tu as l'impression qu'il te prend pour un con, en fait.
C'est énervant.
Quand tu regardes, tu remontes les stats, tu as l'impression que le mec, à un moment donné, tu te dis dans ta tête, et je ne veux pas en arriver là, tu te dis, mais ce mec-là, il nous en veut, quoi.
Mais c'est ça, moi, ce qui m'énerve, en fait, c'est que quand on a vu, c'était lui qui était désigné pour ce match-là, tout le monde a dit, ah, tu repères encore, je fais. C'est énervant parce qu'on est déjà en train de se trouver une excuse si on perd. Mais au final, quand tu vois le scénario du match, tu dis, en fait, c'est énervant parce que quelque part, il donne raison à ses détracteurs avec ce genre d'arbitrage. C'est ça qui est aussi énervant, non?
Oui, c'est très énervant, mais le problème, c'est où est-ce qu'on veut en venir, quoi. Est-ce que
ça.
On a parlé tout à l'heure, là, on en parle, quoi. Qu'est-ce qu'on veut dire, quoi, là? On veut dire quoi? Qu'il est malhonnête? Non, enfin, je pense que personne ne le pense. Après, je pense que le débat, ce serait de dire, sérieusement, c'est le meilleur arbitre de France. Moi, ce qui m'intéresserait, là, c'est de me dire, c'est quoi les critères? Il est même troisième arbitre du monde 2022. Par l'IFFHS, donc il faut voir ce que c'est que cet institut, etc.
Mais comment ils sont?
Après devant il y a Marcignac et l'Italien aussi dont j'ai oublié le nom mais qui sont deux références et Turpin est troisième dans ce classement donc on se dit c'est quoi le délire après
qu'il a fait une Coupe du Monde, est-ce qu'il vient de faire en Ligue des Champions
tu te dis, en tout cas il est toujours là Alors que par exemple, je sais pas moi. Bah oui, alors, voilà, est-ce que c'est ça ? Est-ce que il applique le règlement à la lettre alors que au détriment de l'esprit ? Est-ce que du coup ça lui permet d'être mieux classé que d'autres que nous on trouve bon parce que ils sont dans l'esprit mais du coup ils sont peut-être moins bien notés ? Moi c'est vraiment la question. Il y a une nouvelle direction de l'arbitrage qui arrive.
C'est vrai.
Peut-être qu'elle va s'ouvrir, peut-être qu'elle va expliquer les choix. Peut-être
ils ont voulu sonoriser, ça a été refusé.
Voilà, peut-être qu'il va y avoir des changements, mais on ne réglera pas le problème sans que les arbitres fassent un peu rentrer les gens dans leur quotidien, qui n'est pas évident quand même. Mais c'est vrai qu'après, à la fin, on aboutit à Turpin, pour les Marseillais, en tout cas, a fait tous les mauvais choix. Le but refusé. La façon dont il gère l'embrouille avec Medina et le banc marseillais, l'embrouille avec Tavares et je ne sais plus, c'est Frankowski ou Machado. Oui. On a l'impression qu'à chaque fois, en effet, il est dans un rôle, que ça ne se passe pas bien, que c'est flou.
C'est l'acteur, en fait.
Ouais. Mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement, il est considéré comme l'arbitre numéro 1 en France. Mmh. Moi, je suis désolé. On a tendance à les tailler, les arbitres. Mais cette saison, je trouve qu'il y a. Surtout après la Coupe du Monde, il y a beaucoup d'arbitres français qui ont fait l'effort de beaucoup plus laisser jouer, avec des matchs où il y avait plus de contacts.
Mais, lui, non. Mais là, il laisse jouer en plus. Le pire, c'est qu'il laisse jouer.
À la base, il laisse jouer.
C'est génial. Il laisse jouer. Plus, à aucun vrai. Moment, il.
Ça veut dire qu'à vitesse réelle, pour lui, il n'y a pas faute. Et lui qui d'habitude.
Et il a l'air serein en plus.
Et lui qui d'habitude ne consulte jamais la VAR. D'ailleurs, a priori, Longoria, il est remonté plus contre Monsieur Bien, qui était dans le VAR,
qui avait déjà
des contentieux, que contre Turpin. Mais c'est vrai que moi, ce débat-là, il est intéressant. Parce que ce qu'on va faire, Turpin. Est-ce que c'est vraiment un numéro 1 ? Moi, je trouve que c'est un mec qui sent pas
pourquoi
le jeu tant que ça.
Non, mais voilà, pourquoi
ça, le tempo des matchs, j'ai l'impression qu'il le comprend pas. C'est vraiment un fond. Mauvais mot. C'est quelqu'un qui va appliquer les règles bêtement. J'ai l'impression qu'il applique les règles et il rentre dans ce qu'on lui demande en tant d'arbitre pour ne pas perdre de points, mais il ne sent pas le jeu, il ne sent pas le tempo des matchs.
Ça, tu ne le sens pas le jeu. Ce que j'aimerais, moi, tu vois, c'est l'idéal, c'est que même ces arbitres en amateur ou à un petit niveau, il faudrait qu'ils jouent au football. Ouais. Pour qu'ils ressentent ce que c'est que la sensation de laisser jouer.
C'est comme les politiques qui devraient
travailler
un peu.
Une petite faute qui n'est pas nécessaire à siffler, tu vois, de laisser l'avantage. Mais ça, le gars qui ne pratique pas ou qui n'a jamais... qui n'a jamais essayé de comprendre ça, il ne pourra jamais comprendre ce que c'est le football de haut niveau. C'est-à-dire l'avantage, la compréhension, l'échange entre l'arbitre et le joueur. Et quand tu sais que derrière N'Djimini, c'est ça ? N'Djimi, pardon, qui m'a d'ailleurs arbitré et qui je mettais un petit peu...
C'est pour ça que tu dis N'Djimini.
Non, mais de suite, lui donne raison à 300%. Mais comment tu veux qu'on débatte sur quelque chose quand il y a tous les arbitres, ou en majorité les arbitres, qui donnent raison à M. Turpin, sans pouvoir débattre sur ce sujet-là.
Par contre, au niveau des journalistes et des consultants, il y a quand même une sacrée unanimité de plein de pour dire que pour eux, c'est hallucinant qu'ils ne soient pas accordés.
Mais si c'est en Angleterre, jamais. Mais même pas, ils se
Vous avez vu le but de Haaland quand il déglingue un défenseur, alors là, il y va, mais il le fracasse.
Mais même en Espagne, en Italie,
et là, ça laisse jouer. Il pose le bras. Il le pose même pas parce que le mec se laisse tomber tout de suite, parce qu'il sent le début du contact.
Mais à partir du moment où il se met seul en déséquilibre, en fait, c'est ses appuis qui ne sont pas bons.
Oui, ses appuis sont mauvais, c'est vrai.
Attention.
Il est en déséquilibre.
Et oui, et il sait qu'il va perdre le ballon. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il va chercher la faute. Mais si tu as un arbitre qui ne ressent pas
ça, bien sûr.
À un moment donné, eh ben, tu vas donner faute au défenseur.
Voilà.
Obligatoirement. Donc, et tu vas pénaliser l'effort qu'a fait Sanchez.
Et pour conclure sur ce débat, je pense qu'on arrive au bout aussi, pour moi, de la VAR. Qui a été vendu comme l'objet magique la décision est parfaite, mais le mec qui regarde les images au ralenti, il sent plus le jeu, il sent plus cette réalité, ce que tu dis, la perte d'équilibre, etc. Il va voir des trucs au ralenti, est-ce qu'il le touche vraiment ? Oui, le coude le touche un peu là, et ok. Donc là, tu n'es plus dans le jeu, en fait.
Ce genre de rencontre où c'est le deuxième contre le troisième, tu te dis, il va falloir un arbitrage où tu sais que les joueurs vont se rentrer dedans, où tu sais que ces deux clubs qui mettent la pression chacun sur l'adversaire qui est en face, tu te dis, mais attends, il va falloir que je joue le jeu comme eux.
Et oui, c'est ça.
Il faut que je rentre dans ce système-là. Il faut que cette rencontre, il faut que moi, en fait, je sois transparent sur cette rencontre. En fait, il ne faut pas qu'on parle de moi.
En désamorçage. Désamorçage.
Exactement.
En fait, il est
à aucun moment. Il a forcé toutes les mèches,
Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Enfin, en tout cas, il n'a rien fait pour les éteindre.
Ouais. C'est ça.
Et je pense que si on parle encore de ce but refusé, c'est qu'en fait, y compris si la décision de Turpin fait consensus contre elle, c'est parce que je pense que c'est pas dans l'esprit, dans l'esprit. Après, on est d'accord, on en parlait, ça peut se siffler. Enfin, c'est pas un scandale, on n'est pas en train de dire...
Bien sûr.
Elle peut se siffler, c'est de l'interprétation. Donc, mais je pense qu'il n'y avait pas dans l'esprit quand même.
Mais en plus, je trouve que les Lensois, et même sur le banc Lensois, il n'y a pas eu une révolte, il n'y a pas eu un tremblement de terre. Hein.
Oui, là, ils ont contesté.
C'est normal, mais voilà, tu n'as pas eu un tremblement de terre.
Oui, ils savaient que c'était litigieux.
C'était litigieux. Tu vas la demander, la faute, c'est normal, tu encaisses le but. Mais c'était pas un tremblement de terre.
Faudrait revoir, même Danso, quand il tombe, je crois qu'il fait signe, mais enfin, on sent dans ses yeux
qu'il n'est pas serein du tout. Allez, Ryan, est-ce qu'on va, on peut regarder le classement et les résultats? Parce que du coup, l'OM fait quand même une mauvaise opération avec cette défaite.
On va regarder ça dans un petit instant, parce que du coup, j'avais affiché autre chose. Mais...
Ah oui, parce que c'était le déclat.
Ouais, mais
je trouve que Jean-Charles en avait parlé.
Il y a aucun
beaucoup de choses, problème. Alors,
le classement, du coup, de la Ligue 1 avec cette défaite, du coup, l'OM repasse 3e, Lens 2e avec 2 points d'avance sur l'OM, 5 points.
Monaco a eu un trou quand même.
C'est ça, 6 points de Paris, pardon. Le PSG du coup, qui a enchaîné quand même avec une victoire, on va le voir tout à l'heure, face à 3. Donc c'est vrai que ça a amoindri un petit peu les chances là, d'aller chercher un titre.
Là, c'est terminé. Là.
Ouais, ça commence à être un petit peu plus compliqué.
Calendrier de Paris, mais en plus.
Au-delà de ça, tu as le goal à virage quand même.
Oui.
Particulier, qui est une grosse différence. Quoi.
Ouais, de 28, plus 28 pour l'OM, plus 31 pour Lens et plus 44 aussi pour le PSG, donc c'est vrai que ça commence un peu à creuser. Est-ce que tu veux voir les matchs, du coup, les résultats?
Ouais, juste les résultats, parce que les matchs, on va regarder après dans le petit débat sur la Ligue des Champions.
Du coup, voilà, donc Nice-Rennes, ça nous concerne plus trop maintenant.
Rennes, quand même, qui marque le pas. Hein.
Ouais,
qui marque Genesio, le pas. C'est, c'est irrégulier. Hein.
Exactement. Lille, qui s'incline aussi à Reims, peut nous...
Énorme... Par contre, tu vois, pardon, je pense que ce match qui arrive le week-end prochain, le match entre...
Après Angers, Lens, tu veux dire.
Lens-Rennes.
Ah oui.
Il peut être déterminant.
Pour Après, ils vont à Lorient aussi.
Oui. En fait, c'est les deux matchs qui suivent. Ouais. Ces deux matchs-là vont être. Ils vont te dire si tu pourras finir deuxième ou pas. Pour
c'est
moi.
Hein. Après, ils vont à Auxerre. Non, le dernier, c'est Auxerre. Pour
Après, ils ont Auxerre-Ajaccio.
Mais Auxerre va sûrement jouer le maintien jusqu'au bout.
S'ils jouent le maintien
jusqu'au bout. Mais Rennes à l'extérieur, c'est pas mal.
Rennes, c'est pas.
Ça joue.
Ils ont eu un creux, Rennes, et j'ai l'impression que ça repart un peu.
Justement, moi je.
C'est comme Lorient. Lorient, pardon, a eu un creux. Et puis là, ça repart. Hein.
Ouais, c'est vrai.
Je parlais surtout de cette rencontre parce qu'il y a Lille que l'OM va affronter bientôt. Donc c'est aussi bien de... Bon, on va pas souhaiter du malheur aux autres, mais qui marque un petit peu.
Oui, parce que dans la course à l'Europe, ça les ralentit un peu.
Mais avec un énorme raté de Cabella.
Oui, c'est vrai. Ça. Mais il y a eu beaucoup de ratés dans ce match-là. Il y a eu des grosses occasions des deux côtés. Du coup, Monaco qui s'impose donc 2-1 difficilement face à Angers. Angers, le prochain adversaire de l'OM. Nantes qui va toujours pas bien, bien sûr, avec cette défaite.
Ils sont mal, hein, c'est eux qui sont le relégable.
Je pense qu'ils sont quatrièmement relégable.
Ouais, c'est très très compliqué pour Nantes. 0-0. Donc
surtout qu'ils perdent contre un concurrent direct qui est Strasbourg. Hein.
Oui.
Oui, c'est ça. C'était un match à 6 points.
Oui.
Brest aussi, qui est une équipe qu'on va affronter bientôt. 2-1 défaite face à Lorient. Match complètement faux aussi hier entre Lyon et Montpellier. Qui finit sur ce score de 5-4.
Quadruplé de Lacazette. Quadruplé
de Wailly, ouais. Et du coup, bah, la victoire.
Laurent Blanc, il aime bien les 5-4 face à Montpellier.
Tous les 25 ans, on va dire. Ouais.
C'est surtout Montpellier qui aime
se prendre des 5-4. Ouais.
C'est vrai, c'était un peu le match dingue qu'ils auraient peut-être pu mettre du coup dimanche à 20h45. Ça aurait peut-être fait un peu plus de spectacle. Parce que là, le 3 PSG, ça faisait pas forcément rêver.
Ils ont gagné un match, mais ils ont perdu leur président quand même.
Lyon, on en parlera tout à l'heure. C'est une question de la fac. D'accord. Donc, on parlera un petit peu de Jean-Michel Aulas. Et puis voilà. Du coup les résultats des concurrents et des autres clubs de Ligue 1, en tout cas.
Bon, très bien. On va attaquer par un petit débat sur la Champions League, un truc un peu court. On se posait un peu des questions sur est-ce que c'est mort ou pas encore. Dans quel état d'esprit il faut être? Allez, c'est tout de suite, c'est le petit débat. Et justement, vu qu'on était sur les résultats, on va regarder un petit peu les calendriers qui restent. Parce qu'on en a parlé un peu comme ça, on va un petit peu voir les matchs qui restent pour l'OM. Il reste 4 matchs jusqu'à la fin de la saison. Mis à part le déplacement à Lille, tu vas jouer que des clubs qui sont relégables, voire presque relégués. Ça ne peut pas dire que c'est simple. Parce que quand un club veut sauver sa peau...
Bon, Angers, je pense que c'est fini.
Angers, après, tu peux aussi avoir équipe jeune qui n'a rien à perdre, qui a des faits positifs. Tu vois,
ils vont arriver, ça va être la fournaise.
Oui,
ça c'est sûr. Mais tu es obligé de gagner pour.
Tu n'as aucune excuse si tu gagnes pas contre Angers, tu n'as aucune excuse.
J'ai envie de dire, si tu ne gagnes pas largement, parce que là, il faut mettre tarif.
Mettre au moins 2-3 buts d'écart, quoi.
Je vais faire la fan cam, donc.
Donc ouais, tu veux une soirée de folie un petit peu.
Il n'y avait pas pour rien quoi.
Ouais. Après déplacement du coup à Lille, comme on l'a vu, Lille c'est pas forcément l'équipe super en forme du moment, mais ils ont.
Ça c'est quand même le gros match pour le.
Voilà, mais tu as souvent gagné à Lille.
Ouais, c'est vrai.
Tu as toujours fait de gros matchs à Lille. Bon, on espère que ça continuera, mais surtout en pensant à ces matchs-là, moi je pense surtout aux blessés. J'espère qu'ils seront là pour les rencontres.
Quoi. A priori, là, pour la nouvelle, Sanchez, ça devrait aller, mais il pourrait même jouer le match à Angers. À mon avis, ils vont le préserver face à Angers. Ouais, on va être sûr de l'avoir pour les trois derniers matchs.
Ouais, il vaudrait mieux. De toute façon, on en parlera jeudi pour faire les 11, etc. Et puis, on aura un peu plus d'infos, un peu plus de recul aussi sur les blessures.
T'imagines qu'on n'a même pas parlé de Vitinha ?
C'est vrai.
Tellement ça nous est passé
inaperçu. En fait, on n'en a pas parlé parce qu'il est, mis à part un énorme raté, il est passé un peu inaperçu lui aussi. Quoi.
C'est incroyable.
Ouais. Ouais, mais j'ai l'impression que sans Sanchez, c'est encore plus difficile pour lui.
Même dans la fac, j'ai pas trop sélectionné de questions autour de lui. Il y a eu des messages un petit peu sur Vitinha quand on a fait le décrassage, mais c'est pour faire un énième débat en disant il a coûté 30 millions et pour l'instant c'est un peu.
Non, mais c'est pas une question d'argent, c'est surtout.
Oui, voilà.
Bon, je pense qu'il faut lui donner un petit peu plus de temps quand même à ce joueur. Franchement, je connais pas toutes ses qualités, tous ses défauts, mais il faut lui laisser le temps aussi de pouvoir
trouver sa place,
connaître le club, trouver sa place, comment on veut l'utiliser. Et après, on pourra le juger.
C'est vrai que c'est, pour l'instant, c'est dur.
Il y a deux semaines, sa saison était partie. On s'est tous dit. Là, il rentre dans un match qui est compliqué. Il n'est pas leader. Enfin, peut-être qu'il manque justement un supplément d'âme. On ne va pas revenir sur le match. Mais c'est pour ça que des mecs comme Guendouzi ou Payet seraient hyper pressions cette fin de saison. Parce que ils vont se battre pour le club. Ils ont ce supplément d'âme qui, sans vouloir faire injure aux autres, que les autres n'ont peut-être pas. Quoi. Ouais. Et donc, un Vitinha là-dedans, il rentre à la mi-temps sur un remplacement de Sanchez. C'est pas évident. Voilà. Et quel que soit son prix. Quoi. Après,
et Guendouzi, moi, ce que j'aime bien avec lui, c'est qu'il a un jeu direct que n'a pas Veretout, par exemple. Qui a d'autres qualités. Hein. Ouais. Mais je pense que sur ces fins de match-là, c'est vachement intéressant d'avoir un Guendouzi qui, lui, va faire des passes directes en profondeur, qui va essayer de transpercer des lignes. Chose que Veretout, lui, va plus que construire, etc. Tu vois.
Je ne sais pas profil. Si tu te rappelles, la semaine dernière, on parlait des compos d'équipe avant cette rencontre. De Lens, je reviens parce que tu parles de Guendouzi. Et je disais, pourquoi pas mettre Guendouzi
au milieu
ou même sur un côté. Ouais. Je pense qu'il aurait été plus efficace une nouvelle fois que Tavares. Alors chaque fois on se dit mais c'est pas un véritable piston.
Je suis d'accord.
C'est pas un véritable piston, mais lui au moins son boulot il doit le faire.
En fait, Guendouzi.
Parce que qu'est-ce qu'il nous apportait Tavares une nouvelle fois sur cette rencontre. Donc Guendouzi, je pense qu'il aurait pu plus apporter ce qu'a apporté Tavares.
Guendouzi fait du Guendouzi. Il y a eu le débat en début de saison, est-ce qu'il en milieu défensif, en milieu offensif, mais en fait Guendouzi fait du Guendouzi. Qu'on le place. Sur le papier, là, en haut ou en bas, il jouera pareil, il reviendra descendre, il reviendra presser sur le côté, il viendra faire le pressing dans les 5 mètres devant la cage adverse. Donc, et je pense que là, vraiment, sur des matchs de money time, il faudra un gars comme Guendouzi, en effet, peu importe où il
Je pense
quoi.
Que le prestation de Malinowski, ça va faire réfléchir quand même Tudor pour le prochain match. Donc, on disait Brest, et le dernier match, c'est Ajaccio. C'est la revenge.
C'est ça.
De la première défaite qui avait fait mal quand même. Cette défaite. Parce qu'on avait enchaîné avec
Paris et Lens. Après.
Ouais, c'était un match au Vélodrome avec un penalty de Payet. En plus, ça aurait pu être un centième. C'était son centième.
Mais je pense que c'est comme Annecy. Je pense que d'avoir ouvert le score, ils se sont dit c'est bon, le match il est réglé. Ouais. On peut arrêter là.
C'était un peu. J'ai pas envie d'y retourner.
Là, tu peux pas t'arrêter.
Ah non, mais la deuxième place. Hein. Là, tu peux plus t'arrêter. Là, non, mais à l'époque, je parle.
Oui.
Par contre, Lens. On le disait, deux matchs qui vont arriver qui sont un peu plus compliqués avec Reims et Lorient.
C'est ça.
Donc ça, c'est...
Reims-Lorient pour les deux.
Je pense que ça va se jouer là-dessus parce que... Après,
pour moi, c'est les deux matchs à venir. Je pense que ça sera les deux matchs à venir pour l'Olympique de Marseille et pour Lens. La différence, elle se fera là. Parce qu'après, bon, on ne parle pas de goal average, même si je crois Lens a 2-3 buts. Voilà.
3 buts.
Par rapport à nous. Mais ça, il va falloir faire attention à ça parce que si tu joues la deuxième place par rapport au goal average... c'est un point de plus.
C'est pour ça qu'il faut mettre des tannés à Angers, par exemple.
C'est donc, là, il y a l'opportunité, on joue contre des équipes quand même qui ont des défenses assez faciles à manœuvrer. Mais voilà, là, par contre, Lens va jouer Reims, qui est une défense difficile, avec des attaquants qui marquent des buts. Et qu'à l'extérieur, ils sont totalement libérés puisqu'ils sont sauvés. Donc, ça ne peut pas être si facile que ça.
Et le dernier match, on peut encore avoir une dernière journée de folie. Oui. Parce que si tu as égalité de points, imaginons un scénario comme ça, Lance lâche 2 points sur un match nul à Reims, toi tu gagnes tous tes matchs et tu arrives sur la dernière journée avec un Auxerre qui n'est pas encore
qui
est pas encore maintenu.
Qui sera pas maintenu, je pense.
Et ça peut être encore un scénario de dingue, hein, comme la saison dernière. Allez, on va avancer parce que oui, il y a encore une chance de terminer second. On vient de le voir avec les calendriers. Mmh. Mais si tu termines troisième, parce que au-delà de troisième place, on ne l'imagine pas quand même que Monaco avec 6 points d'écart puisse te reprendre. Il faut vraiment que ça soit
une cata.
Ça serait une cata.
Là, ouais,
serait une cata. Dis,
si te reprennent, c'est que tu mérites pas. Tu mérites pas quoi.
C'est que tu mérites pas du tout. Tu mérites pas. Trois premiers.
Si on part sur le postulat que l'OM termine troisième, il y a quand même encore une chance de pouvoir disputer directement avec des champions parce que. La conséquence de jouer des barrages, c'est catastrophique.
Oui.
Tu as une prépa physique qui est décalée. Le mercato, tu es un peu entre deux parce que tu dois passer les barrages pour savoir si tu recrutes plus ou moins. C'est vraiment, on l'a vu, Monaco, des fois, ça les a fait vraiment souffrir. Donc, il faut que le club qui gagne la Ligue Europa soit qualifié dans son championnat pour la Ligue des Champions. Et actuellement, il reste 4 équipes. Bon, Xavi, ils sont complètement à la ramasse, donc ils ne peuvent pas se qualifier pour la Ligue des Champions. Leverkusen, ils sont à 8 points de la 4e place, donc ça paraît très compliqué aussi. Et... la Roma, qui avait encore des chances, a perdu ce week-end contre l'Inter. Et il se retrouve donc à 4 points de l'Inter et donc de cette place de Ligue des Champions. Donc ça devient compliqué. Il ne reste donc que la Juve.
La Juve.
La Juve qui est second, qui est bien placée pour être qualifiée en Ligue des Champions et qui est un des favoris, qui est le favori, je pense, quand même, de cette compétition. Mais attention, parce que la Juve, qui a été sanctionnée de 15 points de pénalité, les a récupérés, mais pourrait de nouveau les perdre. Et il y a une audience... j'ai noté ça. Fédération italienne de football doit rejuger l'affaire des transferts. Audience le 10 mai, en 2 jours.
Non mais est-ce que tu crois que c'est normal ça en fin de championnat
quand
tu juges, si tu vas en Ligue des Champions, bon c'est pas notre championnat.
Non je sais mais
ça
c'est
fait,
quoi.
Je trouve que c'est scandaleux.
Non, mais ils ont perdu 15 points, redonner 15 points, peut-être leur enlever 15 points.
Non mais ça veut plus rien dire.
C'est n'importe quoi.
Ça veut plus rien dire. Ça fausse totalement le championnat italien, mais surtout ça a des conséquences comme tu viens de dire pour la qualification du troisième chez nous.
Complètement.
S'ils gagnent la Ligue Europa.
S'ils gagnent la Ligue Europa et qu'ils ne perdent pas ses 15 points, dans 2 jours, on va savoir s'ils ne perdent pas leurs 15 points. Donc déjà, en fait, limite, tu deviens supporter de non, la Juve, il faut qu'ils perdent leurs 15 points. Et surtout, on va être à fond derrière.
Il déconne, Munich, là-haut.
Il faut que Munich, il marque des buts, quoi. On va être supporter de Munich. Plus que quand il était à l'OM. Parce qu'il s'est taillé quand il était à l'OM, Munich. Par certains,
oui, non.
Donc tu ne fais pas partie de la team anti-Munich.
Non.
Bon, toi,
moi non plus, je suis pas anti-Munich.
Vous y croyez à la victoire de la Juve en Ligue Europa? Parce que ça commence par ça quand même. Ils jouent le FC Séville, on rappelle, et donc de l'autre côté, il y a Roma.
Je pense que Séville, c'est jouable, sincèrement. Et de l'autre côté, il y a la Roma contre.
Roma contre Leverkusen.
Je pense que c'est jouable pour la Juve, sincèrement. C'est jouable.
Ça serait rassurant quand même. Tu te dis, si, même si t'es troisième, t'es directement qualifié pour la Ligue des Champions. Ça détend un peu tout le monde, là, quand même.
Oui, ça détend clairement, hein, parce qu'en fait, tout l'enjeu de la seconde place en France, c'est de se dire, tu vas direct en Ligue des Champions. Si on te dit qu'il faut être dans les trois, enfin, si on te dit que la troisième est directement qualificative, il n'y a plus de débat. Je pense que le Lens OM, c'est presque un match de gala et on n'en parle plus, quoi. L'idée de pas que Monaco te reprenne pas, mais je veux dire, on n'en serait pas là. Donc oui, clairement, si la troisième place devient directement qualificative pour la Ligue des Champions, tu t'enlèves un très gros stress.
On espère que ça va se passer comme ça. Ça m'empêche pas de terminer second quand même.
Oui, bien sûr.
Tout est jouable.
Vous avez les explications. Ouais. Donc, supportez la Juve. En espérant qu'ils ne perdent pas 15 points dans 2 jours. Et l'OM aura une chance, même en terminant 3e, de disputer la Ligue des Champions. Allez, on va terminer.
Mais attends, s'ils perdent 15 points, ça donne un nouvel avantage à la Roma.
Un tout petit peu plus. Ils sont 7e. Du coup, ils passent 6e et ça relance un peu la Roma.
Mais bon, il y a encore beaucoup de points par rapport aux gens devant. Mais c'est vrai.
Attention, Mourinho est quand même spécialiste des finales de Coupe d'Europe.
Mourinho va peut-être devenir entraîneur du PSG. Allez, on va terminer avec un petit débat sur l'actu en vrac. Il y a un petit peu de mercato, on va faire ça rapidement. Allez, tout de suite, petit débat. Je commence, c'est pas du débat, je vous donne juste 2 petites infos. Selon Odjogo, média portugais, Uribe, qui était annoncé comme une piste possible pour l'OM, car en fin de contrat avec Porto, en fait, il aurait donné son accord au club qatari d'Al Sadd. Avec un petit contrat sympa, 3,5 millions d'euros annuels sur 2 ans.
C'est donné rendez-vous et l'argent.
Voilà, c'est ça. Donc, Uribe a choisi l'argent. Non, je rigole, j'exagère un petit peu. Petite info, parce que c'était une rumeur qui existait. Autre petite info, c'est The Athletic en Angleterre qui explique que Guendouzi, c'est la priorité de West Ham. Donc, vous savez qu'on avait quand même pas mal parlé plutôt Aston Villa avec notre ami Boubacar Camara. Mais West Ham serait vraiment chaud sur ce dossier. De toute façon, clairement, Guendouzi, c'est une des valeurs marchandes pour un gros transfert cet été. C'est le but, en tout cas, de la direction.
C'est le but de la direction, mais surtout, il a la cote en Angleterre. Quoi.
Oui, il a joué
c'est ça
Arsenal,
qui est important pour lui, mais aussi pour le club.
Il a le jeu parce aussi.
Il a le jeu pour jouer en Angleterre aussi. Il a quand même une image assez intéressante, assez belle du côté de l'Angleterre. Donc maintenant, moi, je pense que l'association Camara, Aston Villa à Guendouzi.
Il y a un autre ancien de Ligue 1 qui joue à l'Olympique Lyonnais à West Ham.
Oui, c'est
Paqueta.
Paqueta, exactement.
Donc ça peut quand même, ils ont des.
Alors lui, on a fait super joueur et tout, et West Ham. Mais il n'est pas non plus flamboyant.
Il n'y a pas de Chaleta Tsar qui joue à.
Non, il joue plus bas. Il est à Southampton.
Ah, Southampton. Ouais. Non, mais s'il a marqué un but il n'y a pas longtemps. Ouais. Non, j'ai fait un
mix. Non, mais je trouve que, de toute façon, pour Guendouzi, dans l'état actuel, ce n'est pas un titulaire indiscutable.
Et non, il a un peu perdu
sa place. C'est vrai que. Même si je pense qu'aujourd'hui, il pourrait être titulaire de cette équipe.
Et important.
Et important. Tout comme Payet, d'ailleurs. Parce qu'on n'en a pas parlé, mais tout comme Payet, parce qu'il a démontré ses deux derniers matchs où il est rentré.
Ça peut être un peu le joker de fin de saison, ça.
Et on connaît la qualité de Payet, on connaît la qualité de passe. Aujourd'hui, la qualité de passe, offensivement et même dans les milieux récupérateurs, elle n'existe quasiment plus à l'OM. Et un garçon, à part un DR, qui est capable, à un moment donné, de faire ce qu'il a su faire pendant un moment, mais un garçon comme Payet, qui rentre avec cet état d'esprit, cette volonté, cette envie de donner un bon ballon, cette envie d'aller marquer un but, de soulager son équipe et surtout de maîtriser le ballon. Oui. Il sait casser le rythme, sait accélérer le rythme.
Mais est-ce qu'on ne pourra pas le voir titulaire face à Angers, par exemple?
Mais moi, j'espère. Sincèrement, j'espère. J'espère qu'il pourra être titulaire. Après, on lui donne du temps de jeu, mais il faudrait le laisser sur un match ou deux. Il
reste quatre matchs à jouer.
Mais oui.
Je ne fais pas partie de ceux qui ont pleurer quand Payet est devenu remplaçant. Je me suis dit, après tout, c'est les choix de Tudor. Ouais, voilà, je respecte. Hein,
et
voilà.
C'est compréhensible par rapport au style de jeu.
Voilà, mais là, j'avoue que sur cette fin de saison, comme le dit Jean-Charles,
on a besoin des techniciens quand même.
On a besoin d'un technicien. Et en plus, je pense qu'on a besoin, dans un money time, d'un mec qui se batte pour le club. Je pense que Payet, là, si tu lui dis les quatre derniers matchs, il faut aller chercher la Champions League. Des fois, il a besoin aussi de se chauffer, Dimitri.
Il a besoin d'un challenge.
Voilà, et là, je pense
qu'il. Il faut le challenge.
Là, il est pour lui, quoi. Il reste 4 matchs, il faut aller chercher la Ligue des Champions. Je pense que voilà, autant sur sa qualité tactique que sur ce qu'il peut apporter mentalement à l'équipe, je pense qu'il est chaud, quoi. Enfin, faut vraiment
tu as perdu Unai et Harit, qui sont deux créateurs
c'est ça.
qui sont disponibles.
Mais surtout Nico, regarde, s'il y avait meilleur que lui actuellement. Ouais.
Là, oui,
non, il n'y a pas de.
Tu vois,
de
son aujourd'hui, profil, de son profil, sur les prestations des joueurs qui jouent à sa place.
Malinowski n'est pas bon.
Ils ne se sont pas imposés. Tu vois, donc pourquoi pas. On connaît la qualité de Payet, on sait ce qu'il a fait la saison passée. Alors on va dire, ouais, on est pro Payet. Non, on n'est pas pro Payet. On est pro joueur qui peut apporter quelque chose. Bah, en plus, sur les 4 derniers matchs.
S'il y avait Harit et Unai, on ne se poserait même pas la question.
Et voilà, c'est tout.
En vrai. Allez, dernier petit thème, et après, on vous donne la parole. Question de points. Ryan est dans les starting blocks. La Provence nous indique aujourd'hui quand même que dirigeant marseillais aurait prévu de recruter 8 à 9 joueurs cet
T'as
été.
Habitué, hein.
Ouais, mais bon, on pensait que Longoria nous a expliqué après le dernier mercato que c'est parce qu'il y a eu changement de coach, qu'il était obligé.
Il y aura 4-5.
Là, a priori, il n'y aura pas de changement de coach, sauf surprise. Mais avec autant de départs, donc on ne va pas faire une planification sur les recrues, même si on imagine qu'en défense centrale, sur les postes de piston, il va falloir recruter, etc. Mais 8 à 9 départs. Bailly, ok. Blanco, ok. Tavares, ok. Caboré, sûrement. Donc, ça fait 4 joueurs en prêt qui risquent de partir.
Balerdi
peut-être vendu. Guendouzi, on vient d'en parler.
Guendouzi.
On est à 6.
Ouais. Payet. Est-ce que Payet est là-dedans?
Est-ce que Payet va faire une deuxième saison sans jouer? Ouais. Ça paraît compliqué, même si lui est très attaché au club. Il faut quand même encore en trouver un autre. Peut-être Under, s'il y a une belle offre. Moi, je pense qu'Under, s'il y a une belle offre, il laisse partir.
Il était un petit peu dans le... Dans le premier bateau, Under, non?
Cet été, ils avaient essayé de le mettre dans le deal pour Malinowski.
Donc voilà, ça peut être aussi... on ne sait pas, parce qu'après, comment reconstituer? Est-ce qu'ils ont déjà fait un squelette? Je pense que Tudor a dû discuter avec Longoria pour faire un squelette, un petit peu dessiner son équipe, voir qui pourrait recruter, quel poste il lui faudrait.
Quel joueur il veut remplacer aussi.
Quel joueur il veut remplacer, donc...
Il n'y a pas de gars aussi qui pourrait rester à Séville.
Oui, aussi. Mais attention, par contre, on a des retours. Hein. Et des gros retours.
Ouais, il va y avoir des bouchons pour les retours. Ouais. Il y a Lirola, Amavi, le perdu de vue Conrad, qui ne joue plus du tout.
Mince.
Luis Enrique. Qui? Non, je crois que c'est Luis Enrique. Il rentrera en décembre.
Kolasinac. Il a prolongé?
Ah non, il n'a pas prolongé. A priori, il y a un petit problème de salaire.
Donc, on ne sait pas encore. C'est pareil, là.
Oui, et Sanchez, pareil.
Sanchez, pareil. Donc,
ça va vite. Hein.
C'est... Ah ouais.
On va encore se retrouver avec un mercato avec 10 recrues, 10 départs.
Oh, c'est, tout reconstitué, en fait.
Et franchement...
Mais j'espère qu'ils l'ont dessiné, franchement, la
compo. Il y a de l'argent pour les intermédiaires.
Deux joueurs prêts, quoi. Donc,
Je pense que c'est prévu. Après, il faut les remplacer. Parce que si Kolasinac ne reste pas, si Sanchez ne reste pas, là, tu perds deux leaders, hein, quand même. Hein.
Bah, en fait, qui incarne l'OM, quoi.
C'est ça.
Tu vois, enfin, je veux dire, bon, même auprès, auprès des supporters, tu vois, je veux dire, quand tu vois les maillots, quand tu vas au Vélodrome, si t'as plus Payet, si t'as plus Guendouzi, si t'as plus Sanchez, qui en un an a été capable de montrer qu'il était capable d'incarner l'OM, mais en fait, qui incarne, et sans faire injure à Veretout, à Valentin Rongier, il faut des joueurs comme ça, on en revient à ça, mais voilà, je pense que Longoria, quand même, est vachement attentif à ça aussi, il sait comment ça marche, l'OM. Donc il sait qu'il y a aussi un besoin d'identification.
Il a dit qu'il y a un petit peu d'expérience.
Ça fait beaucoup de départs de joueurs un peu emblématiques, on va dire. Quoi.
Attention aux demandes de l'extérieur. Est-ce que je ne voudrais pas que ça arrive, surtout ? C'est à Valentin Rongier. Avec la saison qu'il vient de faire. Parce qu'on n'en parle pas, mais Valentin Rongier, les observateurs, ils l'ont dans le collimateur.
Il a passé vraiment un cap.
Mais vraiment un cap, parce que cette année, il a fait quelque chose, une saison extraordinaire. Il a pris le brassard, il a été plus ou moins leader de cette équipe-là, lui, il représente Marseille. Je trouve que
c'est vrai, c'est vrai.
Il représente quand même Marseille.
Il a voulu venir. C'est important.
Et puis bon, il s'impose un petit peu de partout. Il a cette qualité de mental et surtout de... En fait, je sais pas, je pense qu'il a compris la relation entre le public, entre les supporters et l'OM.
L'exigence du public.
Voilà, donc,
Ok, c'est vrai. Il restera rongé, ouais. Mais voilà, encore faut-il qu'il
parte pas. Attention, parce que les demandes peuvent venir un petit peu de partout.
Dites-nous dans le chat... Les joueurs que vous imaginez partir et les recrues que vous imaginez arriver, c'est intéressant pour peut-être en parler tout à l'heure. Mais on va vous donner la parole tout de suite. C'est la fac, c'est What the Fac. Jean-Charles me demandait si Harit avait signé. Oui.
Parce que Harit. Je ne me rappelle plus.
Harit et Malinowski.
Il a signé, c'est ça.
Harit et Malinowski, c'est les transferts définitifs.
Voilà, les prêts ont été transformés. Harit,
je crois que c'est 4 millions seulement.
Je crois que c'est 5.
5,
mais...
5 millions. Voilà, oui, bonne affaire.
Si parce que Ounani aussi, il va falloir compter sur lui.
Ounani, bah oui.
Et Harit, ouais, le retour, bien sûr. Mais c'est parce vrai que tout à l'heure, vous parlez de facteur X. Ça peut être ça aussi. J'en ai vu dans le chat un peu.
Bah, Harit, c'est un peu le facteur X du début de saison.
Hein. Oui, c'est ça. Mais Ounani peut avoir aussi ce profil-là.
Oui, Ounani, ouais, on va plus
le voir. Je pense que lui, franchement, il a quelque chose.
Ah, ouais, c'est sûr.
Sincèrement.
Et on a JOMRCT qui dit.
Ah,
Payet.
Non, je boycotte.
Non. Il, parce qu'il parle de Payet. Vous avez parlé un peu de Payet, de sa fin de saison. Est-ce que peut-être il peut un peu plus jouer, etc. Il dit Payet, ils vont certainement le suspendre pour la gifle. Est-ce que vous avez ces images?
J'ai vu ces images. Exact. Oui, parce que dans les chauffourées, après le ballon balancé par notre ami Medina, il vient et il se chauffe à Cahuzac, j'imagine.
C'est
ça. J'ai pas vu à qui, mais. Et il gifle, elle part comme ça.
Cahuzac.
Monsieur Carton Rouge.
C'est mérité, enfin, je sais pas, non
d'office.
Pour Cahuzac, enfin, c'est pas...
Il a dû dire des choses très sympas. Mais bon, c'est vrai que j'ai vu cette image où il met une petite giflette à Payet.
Ouais, est-ce qu'on peut ça peut être...
Ça peut. Les images peuvent être exploitées par...
Et les images de...
Mais ça veut dire que quoi que...
Speed.
Pardon.
Les images peuvent être exploitées par la commission.
Mais qui, en fait,
ça veut dire que... Ils peuvent pas être exploitées, les images, quand le ballon va sur le banc de touche.
Ouais.
La frappe. Ça peut être exploité aussi, alors. Eh oui, mais... Si on commence à revenir en arrière après une semaine en disant ben, « Tu comprends, il aurait pas dû... » Oh, c'est bon, là.
Ouais, mais bon, souvenez-vous, Payet, qui en sortant des vestiaires avait gueulé devant la porte de l'arbitre, il s'était fait sanctionner pour ça.
Après, je ne sais pas ce que c'est le règlement. Est-ce que tu peux ? En rugby, je sais que si l'arbitre n'a rien vu, la commission de discipline peut se saisir de l'affaire s'il n'a pas sanctionné sur le coup.
Je crois parce que tu vois, cette histoire de Payet qui gueule devant le truc des arbitres, c'était une image vidéo de Canal+. L'arbitre ne l'avait pas vu. Donc, c'était pas dans son rapport. Donc, je pense que la commission peut se saisir de certaines images.
Okay.
Si c'est le cas, oui, effectivement, Payet peut prendre des suspensions.
Il y a tant de sanctions à prendre quand il y a le jeu.
Ouais, ça
plutôt en prendre après.
Ça ferait lourd.
Ça ferait beaucoup.
Ça ferait lourd pour
ça
ce match.
Ça ferait beaucoup. Il y a déjà,
Moi, je pense qu'il y a un minimum d'intelligence.
Mais je sais pas, tu sais, quand tu vois la suspension des Fanatics, tu peux aussi te dire que c'est. C'est...
Là aussi, que Lens n'a pas été suspendu.
Non, voilà.
C'est à ça que tu faisais allusion. Allez, Ray, une autre question, s'il te plaît.
On a Michael qui nous rappelle aussi la petite info sur Klose. petite augmentation de salaire et probablement une prolongation aussi proposée d'après le journaliste Nicolo Chira.
Je crois qu'il n'y a pas eu de prolongation, non, en fait, non, c'est juste une augmentation de salaire.
C'est une nouvelle info.
Ouais, ça, c'est une nouvelle info d'un journaliste italien qui dit qu'il y a potentiellement encore aussi
une année supplémentaire.
Voilà, une prolongation proposée. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Parce qu'il a déjà un contrat jusqu'en 2025. C'est vrai qu'il avait un salaire plutôt bas, mais son contrat ne court que jusqu'en 2025.
Bah pour
les journalistes français n'annoncent pas une prolongation.
Ouais.
Et c'est un journaliste italien qui, lui, a des informations
c'est pour possible.
Nous indiquer, de dire que...
Si par exemple, imaginons un club italien se prospecte un peu pour Klose et qu'ils ont eu l'info de on discute et il a apparemment une proposition, etc.
Ça peut fuiter comme ça.
Marche. Ouais.
Sincèrement, en tant qu'ancien, si on te propose une augmentation de salaire, c'est que tu as une prolongation derrière. Je ne verrai pas pourquoi. À moins qu'il y ait une clause.
C'est possible.
A priori, c'est plutôt, à mon avis, ils avaient dû lui dire « Ok, tu fais l'effort parce qu'il y a des histoires de rentrer dans les clous au niveau du financier. Ouais. Et si ça se passe bien, à la fin de la première saison, on arrange tout ça et sans forcément une prolongation de contrat. »
Si y a la qualification directe ou la qualification... Mmh.
Mais ça reste un joueur important, Klose.
Oui.
Mais sincèrement... Quand tu vois ce qu'il a montré la dernière année à Lens, le début de saison qu'il a fait à l'Olympique de Marseille, les qualités qui remontent aujourd'hui, même s'il y a de la maladresse sur la dernière passe, tu vois qu'il y a de la qualité.
Oui.
Tu vois que c'est un vrai footballeur.
Il faut qu'il se remette la tête à l'endroit quand même.
Attention, le coup qu'il a pris derrière l'équipe de France, ça ne l'a vraiment pas arrangé. Alors on va dire, oui, mais on traîne là-dessus. Oui, d'accord, mais ça traîne un peu plus longtemps que prévu.
Il digère tout ça.
C'est un jeu qui est fait avec des humains, quoi. Et franchement, voilà, moi, on peut comprendre, quoi. Il avait
une coupe du monde, c'est le rêve d'un footballeur.
Franchement, il aurait, enfin, c'est même pas qu'il aurait mérité, il aurait dû être sur cette liste parce qu'en plus il manquait un piston. Enfin voilà, bon, franchement,
Deschamps a changé son système de jeu et voulait des gros bourrins.
Il y a pas de latéral droit.
Il
voulait des défenseurs centraux à droite. Dizazi à droite.
Je veux dire, voilà, en 26e, il a rappelé plein de mecs. Bon, il aurait dû le faire. Voilà, il aurait dû y aller. Il a stage là, voilà. Et c'est vrai que c'est
on peut comprendre.
Il l'a vu passer comme ça, quoi.
Ouais.
On peut comprendre. Allez, il y a une autre question, s'il vous plaît.
Juste pour répondre rapidement à Djokovic, parce qu'il dit les gars, vous parlez de recrutement, mais le centre de formation, il est si nul que ça. Là, c'est vrai que sur les derniers échos qu'on a pu avoir.
Les deux U15 qui sont pas mal. Mais
voilà, mais c'est encore trop jeune, quoi. Trop tendre pour les jeunes qui sont trop proches.
Les U19, ils sont deuxième, premier deuxième, je crois, non
ouais. Ouais, je crois que c'est deuxième. Ouais. J'ai vu ça aussi.
Derrière Montpellier, je crois.
La question est bonne. C'est vrai que. On se dit, ce centre de formation, les U19 sont seconds. Mais à partir du moment où ils ne sont pas sur la feuille de match, où tu n'as pas d'apparition, que tu ne rentres pas, c'est que le club, l'entraîneur, le staff, a décidé qu'il n'y avait peut-être pas encore le niveau pour jouer en Ligue 1. Mmh. Parce que sinon, dans tous les autres clubs, tu as des joueurs de 19 ans ou 20 ans qui sont bons, ils font leur apparition.
Tu en as partout. Chez nous, maintenant, Jean-Charles. Enfin, tu vois, c'est. Enfin,
voilà, c'est ce que je veux
partout.
Dire.
Enfin, avant, c'était un peu Lyon. Maintenant, c'est partout.
Ouais.
En fait.
Rennes. Et tu prends Monaco.
Même au PSG.
Tu prends Monaco, le petit Diop, il a 17 ans. Benteguir, il a 18 ans. Je veux dire, les joueurs qui sont bons, tu prends Rennes, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, l'attaquant. Pareil, il joue.
Doué, il y a Doué aussi.
Mais même, tu prends Paris. Il a 17 ans, il vient de faire. Rennes. Il vient de faire 17 ans. Pardon ?
Zahiri.
Quand tu es bon, tu joues. Tu vois, moi, je pense qu'ils n'ont pas détecté encore les joueurs qui étaient capables de jouer en Ligue 1. Mmh. Alors, moi, je suis pour le centre de formation parce que j'ai été formé au centre de formation. Et je suis pour les jeunes Marseillais et ceux qui y sont et qui travaillent dur pour y arriver. Mais après, il faut que tu aies la qualité aussi. Mmh. Si tu n'as pas la qualité, je comprends mieux peut-être les décisions que tu dois.
Mais sur certains matchs, c'était vraiment pas jouable quand même de se dire on les fait rentrer 5-10 minutes. Enfin, si tu étudies la deuxième partie de saison d'Igor Tudor, tu te rends compte qu'il y a moins de changements.
C'est vrai.
En première partie, il utilisait 5. Hein, donc,
oui, très tôt des fois. Hein.
À deux, trois exceptions près, il utilise les 5. Donc, ok. Je veux dire, sur la deuxième partie de saison, sur des matchs où. Alors, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de matchs tendus, mais c'est pas possible de se dire on arrive à faire confiance 5-10 minutes. On l'a fait à l'arrache contre Annecy, parce qu'on a tous oublié ce match. On a tous oublié ce match parce que c'est l'élimination.
De Mouégué.
Mais n'empêche que le héros, c'est.
Il a disparu de la circulation, le garçon.
Bah, il est toujours sur la feuille de match.
Non, mais après, moi, je trouve que là, tu vois, quand tu dis ça, tu pointes du doigt aussi, pour moi, deux autres problèmes. Le premier, c'est que Mouégué, comme Elmas, qui est souvent sur la feuille de match, c'est de la post-formation. C'est des mecs qui sont arrivés il y a un an, qui n'ont pas été formés à l'OM, mais c'est de la post-formation, ils débarquent. Et on en a recruté beaucoup des joueurs comme ça. Et là, déjà, je sais pas si vous avez vu la longue liste de tous les joueurs. du centre de formation qui vont pas rester.
53.
Il y a déjà des joueurs qui ont été recrutés en post-formation qui vont partir.
Il y a déjà eu un loft.
Et des mecs qui ont été payés en plus pour venir. Donc il y a un problème par rapport à ça. Et l'autre problème pour moi, c'est ce que Longoria en avait parlé, parce que l'OM s'est fait sanctionner quand même en Ligue des Champions pour pas avoir assez de joueurs formés au club, c'est que tu laisses pas la place dans ta constitution de ton groupe pro pour des jeunes. Ça doit être une réflexion maintenant, de se dire, ok, on va construire le groupe pour la Ligue des Champions, donc tu dois avoir un 11 avec les remplaçants, mais peut-être que le troisième sur ce poste-là, on va pas prendre un mec lambda, et on va se dire peut-être que le petit jeune, là, U19, il est pas trop mal à ce poste-là, et je dis même pas le remplaçant du remplaçant, de se dire peut-être que le
plus... Oui, en cas de coup du
jour. Et dès que tu vas avoir une blessure ou une suspension, ben bam, le petit jeune, il rentre, il est sur le banc, et si ça se passe bien, il rentre un peu. Voilà, ouais. C'est comme ça que ça doit se passer. Ouais. Mais si tu n'anticipes pas dans ta construction de groupe, et que tu vas recruter des mecs à l'époque, des Sertic et des mecs comme ça, qui bougent des trous et qui sont pas au niveau et que tu payes cher, ben tu flingues aussi tes jeunes.
Sincèrement, Nico, je pense que pour réfléchir comme tu dis toi, il faut avoir une pensée pour les jeunes. Tu vois, nous, on n'a pas cette pensée de la formation. Sincèrement, je le pense sincèrement. Le club n'est pas dans l'état d'esprit de dire on a des jeunes, il va falloir qu'on les envoie. Qu'on les fasse monter, même s'ils ne sont pas pour le premier match, le deuxième match, ça ne fait rien. Il faut qu'on insiste un peu pour savoir ce qu'ils ont dans le ventre, donner cette image d'une volonté de mettre des jeunes. Nous, on ne le fait pas. On ne le fait pas. On a toujours peur, je ne sais pas de quoi, sincèrement. On parle tant de centre de formation, on dit ouais, mais on va le reconstituer, on va le faire d'une autre façon, on va le faire intégrer le groupe. Mais c'est bien de parler. Mais dans l'esprit. Est-ce que dans l'esprit, c'est une vérité?
Ben non.
Voilà.
Donc, parce que les derniers joueurs qui sont
sortis... Donc, je veux dire, il n'y a pas cette volonté
Lopez,
peut-être de vouloir
Lopez
le faire.
Lopez que tu as liquidé à Sassuolo pour même pas 2 millions. Camara qui est parti en fin de contrat parce que bisbille avec les agents. Et Perrin que tu as liquidé à Strasbourg. Et tu peux trouver des joueurs. Tu n'es pas obligé de sortir un Servien de Nasri chaque année. Tu peux sortir des joueurs comme Abergel,
qui deviennent
des bons joueurs de Ligue 1. Ouais. Et je suis convaincu que dans le centre de formation, il y a des joueurs qui ont la capacité de devenir des bons joueurs de Ligue 1.
C'est pour ça que je pense que l'état d'esprit n'est pas encore dans ce sens-là.
Ouais, c'est ça. Mais c'est un problème, parce que tu as des sanctions à cause de ça. Ça coûte cher de faire le centre de formation. Actuellement, l'OM, il paye beaucoup d'argent pour le centre de formation.
Ce qui est dommage quand même, c'est que depuis l'arrivée de McCourt, en fait, ça a été une priorité.
Oui,
sauf qu'en fait, on a encore tout changé au départ d'Héro. Héro a créé quelque chose. On en pense qu'on en veut. Moi, je pensais que c'était plutôt bien. Mais bon, enfin, le Next Generation, machin. Le fait peut-être de renouer aussi avec les clubs, alors que ce soit des clubs formateurs ou des clubs de quartier.
Aussi,
oui, bien sûr. Mais enfin, bon, on a suffisamment reproché à l'OM de ne pas le faire. Oui. Donc, bon. Voilà, il me semblait qu'il y avait quelque chose qui se dessinait. Et là, visiblement, en effet, on rétropédale. Nasser Largué, il n'est plus là. On remplace, on met quelqu'un d'autre. Et surtout, on adopte une autre stratégie. Donc, ce qui est paradoxalement, j'ai l'impression que depuis l'arrivée de McCourt, la formation s'est enfin pris en compte. Ça avait été pris en compte par Héro. Je pense que Longoria le prend en compte. Mais là, en fait, on ne fait que rétropédaler. Quoi. Faudra...
Ce qui est dérangeant, en fait, c'est que les jeunes, tu les incorpores pas. Et quand tu es en difficulté... C'est eux que tu mets d'avant où ils se font descendre.
Ça, c'est toujours.
C'est pas la bonne solution, ça. La formation, c'est là où tu la tues, en fait.
Et on en parlait, le jeune Simon qui ne joue pas, alors qu'a priori, il est pétri de talent. Tu es en train de le tuer. Prête-le. Il y a des trucs que tu comprends pas. On en parlait avec le président de Martigues la dernière fois. Il disait, mais moi, prendre un ou deux jeunes à l'OM, ça me ferait plaisir.
Il serait content.
Il aimerait même, il a demandé presque. Et non, ça se fait pas. Moi, je. Il y a des choses. Le Martigues, il joue la montée. Ouais. C'est quand même super intéressant d'avoir un club comme ça un peu filé.
Surtout, niveau
national ou même s'il monte, il faut le souhaiter en Ligue 2. Mais même niveau national, c'est intéressant.
Devrait passer pro en plus d'ici un ou deux ans.
Ouais.
T'imagines le truc? Tu peux mettre tes jeunes dans un club à côté. Ils sont pas obligés de quitter leur environnement. C'est génial. Parce que c'est ça qui est dur quand t'es jeune. C'est de partir. Là, on parlait de Vitinha. Vitinha, c'est super dur pour lui de quitter le Portugal. Il était jamais parti. Il a perdu tous ses potes, toute sa famille. Il est un peu perdu. Ça joue aussi. Et là, t'as un club juste à côté. Tu peux placer un ou deux, voire trois joueurs.
Puis, en fait, t'as même deux, parce que t'as Marignac, Gignan qui risque
de monter normalement. Ouais.
Donc, t'as même deux, en fait, porter des clubs satellites.
Ça pourrait être tellement positif pour tout le monde, parce que ces joueurs-là, s'ils jouent bien, en plus, même pour Marignan ou pour...
Non, surtout Marignan, en plus, il y a deux entraîneurs, deux ex-Olympiens,
un
directeur du centre de formation et un ancien capitaine de l'OM. Donc, tu peux pas mieux trouver, quoi.
Il y a des choses à faire, quoi. Et ça paraîtrait tellement positif. C'est un peu dommage. Allez, Ryan, peut-être une autre question, voire deux.
Il y a OM Alavi qui nous parle du maillot de l'OM. Il dit bof, lui.
On peut le voir ?
Bien sûr, ouais, on va te montrer. Il y a une petite vidéo qui a tourné un peu sur.
Je crois que c'est celui que j'ai vu, mais.
Ouais, sur les réseaux. Mais bon, on va peut-être aussi pouvoir vous donner quelques petites infos que
nous. Oui, on a eu des échos quand même.
Voilà,
des inscriptions grecques et des trucs en latin. Et tout,
exactement. Et c'est vrai que cette vidéo, elle a fait pas mal réagir. Parce qu'il y a des gens en fait qui appréciaient pas. Après, il faut dire que la vidéo ne met pas forcément le maillot en valeur. Je vais essayer de vous montrer ça.
C'est pas forcément le maillot définitif.
Aussi. Alors voilà, donc ça, du coup, on l'a comme ça avec ce bleu un peu plus foncé pour le CMA CGM et le col rond, du coup, avec un petit liseré blanc. Et il y a un petit peu de gris, du coup, comme on peut le voir. Je vais essayer d'agrandir un peu la vidéo.
Un peu de gris ? Qu'est-ce qu'il va avoir le gris là-dedans ?
Calanque. C'est le rocher.
Ah, okay,
c'est
d'accord.
Qu'il y a des rochers.
Il y a de la recherche. Hein.
C'est ça. En fait, du coup, on a essayé de voir un petit peu, on a prospecté aussi du côté de FCM pour savoir un peu ce qui se passait autour de ce maillot. Alors, déjà, on peut vous confirmer que c'est le vrai de la saison prochaine.
Il va ressembler à ça.
Voilà, il devrait ressembler à ça parce qu'on a vu sur les réseaux aussi certaines personnes qui ont dit que c'était pas celui-là, que c'était faux, etc. Non, on peut vous confirmer que c'est bien celui proposé par Puma. Comme on peut le voir derrière, du coup, il y a écrit Petra Genesis, je crois.
Le rocher originel qui veut
du coup faire un peu allusion du coup aux premières terres qui ont été foulées par les Grecs quand ils sont arrivés à Marseille. Du coup, ces petits détails gris que vous voyez là, on les voit pas très très bien parce que c'est une vidéo faite avec un téléphone un peu à la va-vite comme ça. On peut aussi se questionner du média qui poste cette vidéo parce que c'est un petit compte Twitter de 40 abonnés qui ont une chaîne YouTube aussi avec très très peu d'abonnés. Non pas que quand on n'a pas d'abonnés, on n'a pas d'infos, mais bon, c'est un peu étonnant quand même. Du coup, c'est censé donc représenter, comme tu disais, Nico, un peu de cet aspect un peu roche des calanques. Et apparemment, donc, trois maillots devraient sortir, avec chacun un nom en rapport un peu avec la ville de Marseille, et qui aurait aussi des noms grecs, donc revenir un peu aux origines de la ville. Un petit peu comme ce qui avait été fait aussi à une certaine saison, je ne me souviens plus exactement, mais on avait fait un peu des détails, un peu comme le stade Vélodrome avec ce maillot bleu et le maillot noir avec comme le Mucem. Donc voilà, c'est aussi un peu pour revenir. Il est très simple, mais on ne peut pas dire qu'il soit moche. Quoi. Enfin,
mais il n'est pas moche, mais il n'est pas beau.
Non, ce n'est pas exceptionnel. Mais en tout cas,
le col, déjà, je n'aime pas.
Après, Jean-Charles, le problème, c'est que ce maillot-là, il est filmé super mal.
Ouais. On ne voit pas beaucoup.
Là, sur cette image, je parle de cette image-là.
Oui, bien sûr.
Je pense que Puma a fait de plus beaux maillots que ça. Hein.
J'attends de voir, moi, ce que ça sera porté, tu vois. Parce que le nombre de fois où je me suis dit, oh, il est trop beau ce maillot, et puis porté, j'ai pas trouvé beau. Et inversement, où là, tu vois, c'est mal filmé. Et a priori, c'est pas le maillot définitif. On ne sait pas si le logo, il sera vraiment comme ça. On ne sait pas si c'est vraiment la coupe définitive. Donc, il faut faire attention. Les maillots, ils ne sont pas encore totalement définitifs à ce moment-là.
C'est ma CGM, c'est vraiment très simple. Hein.
Ça va ressembler à ça.
J'espère que ça ne ressemblera pas juste à ça.
C'est pas le. Il faut le voir porter. A priori, porter. Les échos qu'on a eus, c'était pas trop mal. Et c'est designé aussi par des équipes à Marseille. Il faut quand même
signer.
Voilà. Ne jugez pas trop vite, c'est des trucs qui fuitent.
Cette photo, moi je parle de cette photo.
Oui, c'est pour ça que c'est difficile.
Après, elle est bien prise, elle est mal prise, c'est vrai.
Mais ça joue. Tu verras quand l'OM, ils vont faire leur communication.
Avec les belles photos, peut-être au Calanque, avec Payet.
Au début d'été, là.
Parce que un maillot un peu plus stylé, enfin, je sais pas.
Après, le plus choquant dans cette histoire, c'est quand même cette histoire de les Phocéens débarquer dans les Calanques, quoi. Mais il faut peut-être dire qu'en fait, ils n'ont pas débarqué entre Marseille et Cassis. Ils n'ont pas débarqué à Sormiou. En fait, la Calanque dont on parle, je pense que c'est le Lacidon et c'est le Vieux-Port. Hein. Donc voilà, pour redire, on imagine tous la balade à Sugiton. La Calanque, c'est le Vieux-Port, c'est le Lacidon. Voilà, c'est la Calanque du Lacidon. Et le rocher, on peut supposer que c'est le panier, puisque c'est là que les autochtones étaient avant que les Phocéens débarquent. Donc voilà, petit point histoire.
Et est-ce que vous pouvez préciser aussi que Coscar n'était pas seul quand il a découvert les marques dans la grotte ?
Si, je crois que c'est le premier en fait.
Oui.
C'est
pas lui qui les a découvertes. Ouais, ouais.
Ce qui serait bien, c'est que le maillot, tu vois, là, ils sont un peu calcaires, tu sais, tu le touches et t'as la même sensation que quand tu vas dans les calanques. Tu sais. Là, vraiment, Puma innoveré.
Et t'as la main de la grotte Coscar sur le côté, tu vois.
Bah, l'année prochaine, ou le maillot peut-être, extérieur.
Peut-être. On vous donne des idées, les gars.
Sur le côté, on a déjà une pub.
Ouais, on aura le logo de Jul. Non, c'est pas.
Il y aura la main de.
Ah, c'est vrai qu'il aurait pu faire un.
De façon préhistoire.
Le nœud préhistorique actuel. Allez,
très bien. On a parlé un petit peu de ce maillot. C'est vrai que ça a fait beaucoup, beaucoup de bruit ce week-end et on n'a pas pu en parler samedi, parce que.
On salue, on a parlé d'ailleurs qui avait des infos.
C'est ça, oui, c'est Sourignac qui avait les infos. Vous pouvez aller lire l'article sur, le, sur notre site où on en a parlé. Très très bien, mais on peut du coup passer à la dernière question. Bon, vous en avez un petit peu discuté aussi par rapport à Payet, on en a reparlé aussi. Mais c'est Lico Dingo qui dit, est-ce que Longoria pourrait intervenir auprès de Tudor pour, se, pour qu'il puisse se passer un peu des recrues hivernales sur le 11 de départ, donc je pense qu'il pense à Malinovski et à Vitinha, pour remettre l'étolier de l'an dernier, Guendouzi Payet, donc pour le rush final. Est-ce que Longoria peut aller...
C'est la question qu'on se posait.
Chaud.
Il peut avoir un échange.
Oui,
déjà.
Voilà, oui. Mmh. Et ça, je pense qu'ils en ont régulièrement.
Voilà, je pense que des échanges entre président et entraîneur... Mmh.
Et Tudor, il voit des choses, quand même.
Je pense que Tudor, il n'est pas si bête que ça, quand même. Tout au long de la saison, même si c'est un garçon qui est dur et qui reste sur ses... objectifs avec sa façon de voir les choses.
Mais il évolue quand même sur certains postes. Tu vois, on a vu un Mbemba, il a sorti un Mbemba, il a mis du Balerdi, on a vu Caboré qui a joué à la place de Tavares. Mmh. Il n'est pas complètement fermé. Si, non, surtout, il est fermé sur Rongivert et tout. Là,
ça oui. Mais surtout que ces derniers matchs, il en reste que 4, il y a un but au bout de ces 4 matchs.
Oui, un objectif.
C'est pas un fin de championnat simple. Là, il y a quelque chose qui peut apporter gros au club, et même à lui personnellement. Parce que s'il finit deuxième, pour lui, c'est une carte de visite un peu plus importante pour les Warriors s'il devait partir.
Terminer sixième avec les Lasers.
Non, mais voilà, je pense que les deux rentrées de Guendouzi et de Payet ont été déterminantes les deux derniers matchs.
Oui, c'est ça, c'est deux matchs en plus.
Donc, à un moment donné, il va falloir aussi faire ses choix forts par rapport au rendement aussi des joueurs titulaires qu'il a pu mettre face à Lens. Ouais. Il y a des joueurs qui n'ont pas été à la hauteur. Et que Payet et Guendouzi ont été à leur hauteur quand ils sont entrés, donc à lui de juger si, si vraiment c'est nécessaire.
Oui,
je vois toi même avoir les deux titulaires.
Oui, moi, il faut, enfin, oui, pourquoi pas, ouais. Oui, oui. Et en effet, on voit que Malinovski et même Hunder sont en souffrance, surtout Malinovski. Mais je dirais, puis ça pourrait être bien aussi que de voir Hunder jouer un rôle de joker. Hein. Enfin, je veux dire, il est capable. Donc voilà, moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Pour le supplément d'âme qu'ils apportent et pour les choses qu'on n'a pas actuellement, pour moi, Guendouzi et Payet doivent revenir dans le 11. Quoi.
Mais surtout, c'est une équipe qui se connaît bien. Si tu rentres Guendouzi et tu rentres Payet aussi, ça sera un effectif où les joueurs n'ont pas de souci de comportement entre eux. Mmh. Tu vois, ça reste quand même des joueurs qui ont joué toute la saison passée. Avec des joueurs actuels, parce que s'ils rentrent ces deux-là, qui aura de la saison passée ?
Mais quand tu te poses
quasiment tout le monde.
Quand tu te poses la question sur le 11 de, type de Sampaoli la saison dernière, est-ce qu'il en reste sur le 11 type Igor Tudor ? C'est flippant. Under, t'as...
Et encore, enfin, tu vois, qui n'est pas indiscutable.
Ouais, mais qui s'est imposé maintenant.
Oui, qui s'est imposé. Voilà,
c'est vrai que sur toute la saison, tu peux. Ouais. T'as Rongier et t'as Lopez.
Ouais, et Balerdi.
Balerdi, oui, mais maintenant tout de suite un peu moins, tu vois.
Ah ouais.
Si toute la défense Mbemba, Gigo, Kolasinac, qui est quand même la défense depuis plusieurs matchs, les trois ne jouaient pas ou peu. C'est incroyable.
Mais ces trois joueurs-là, je dirais qu'il y a une facilité à se reconstruire avec d'autres joueurs autour. Tu vois, ce sont des joueurs de caractère.
Mmh, oui,
donc pour eux, l'état d'esprit, il est très simple. La volonté de jouer avec des Payet ou des Guendouzi, c'est pour eux, c'est de la simplicité. Maintenant, quand tu mets un joueur qui n'a pas été titulaire, mais qui n'a pas aussi l'expérience de ce haut niveau,
oui,
un garçon comme Payet, il rentre dans une équipe, il va rentrer avec facilité.
Il faut qu'il ait le rythme
physique. Guendouzi, pareil. Tu vois, maintenant, si tu mets un jeune joueur, ou même Malinovski qui rentre, il a plus de difficultés. Parce qu'il ne connaît pas tout encore de Marseille. Système de jeu, le public, ce qu'il doit faire vraiment. Là, Payet, il va rentrer dans... Je dirais
dans son jardin.
Dans son jardin, enfin, quoi. Voilà. Et qu'elle nous y pareil. Ouais.
C'est vrai que face à Angers, moi, je trouve que c'est une bonne occasion. Allez, petite question là que je rajoute, moi.
Ouais, non, mais attends, juste c'est urgent ce que tu.
Non, vas-y, stocker la priorité.
Parce qu'il y a une petite info de notre ami Hakim Zouri, journaliste pour les Lions de l'Atlas, qui dit que l'OM songerait à se faire prêter Yacine Bounou, gardien du FC Séville, vu que Séville ne jouera pas la Ligue des Champions la saison prochaine, selon toute vraisemblance.
Tu vas faire avec Bounou, tu vas mettre Lopez sur le banc ?
Ben, c'est possible, on ne sait pas. En tout cas, ben, vu que Ruben Blanco devrait partir...
Ouais. Bounou, il ne va pas venir pour être remplaçant à Marseille. Quoi.
Non, mais bon, peut-être une petite concurrence, un vrai numéro 1 bis, ouais, pour une fois.
Ah, ne commençons pas à faire comme Paris a fait, parce que ça, alors, les gardiens de but, c'est mettre les deux en porte-à-faux,
ouais,
et celui qui rentre... Moi, alors ça, je ne comprends pas. Mm. Moi, tu as un gardien numéro 1, un gardien numéro 2. À moins que le numéro 1 se trouve constamment. Par contre, la grosse erreur de Paris, puisqu'on parle de Paris, c'est d'avoir gardé Donnarumma, de ne pas garder, avoir gardé Navas.
Ça, c'est du business,
pour moi, hein, donc, tu vois, à partir de ce moment-là, si tu mets en porte-à-faux une nouvelle fois Paul Lopez pour faire venir un gardien international qui a fait une demi-finale de Coupe du Monde, ça veut dire, ça veut dire Bounou, quoi.
J'adore, mais le truc qu'il y a, c'est que oui, si tu as une belle offre et que tu vends Lopez, ok, tu vas prendre numéro 1. Mais si tu peux encore remettre.
Ouais. Mais c'est ça, en fait. Tu te crées un problème à un poste où il n'y en a pas eu pendant 15 ans, en fait. Il n'y a pas eu de problème à ce poste. Limite, il aurait fallu anticiper la retraite de Mandanda. Et là, en fait, voilà, plutôt que quand Pelé a été prolongé, peut-être que voilà, on aurait pu se dire,
mettre un jeune un peu,
voilà, on parlait des Lafont à l'époque, des choses comme ça. Ouais, mais et là, du coup, en fait, si le poste de gardien à l'OM devient un problème, c'est dommage, quoi.
Surtout que Lopez, il fait une bonne saison globalement, quand même.
Bah oui.
Tu vois.
Tu l'as déjà mis en porte-à-faux.
On peut rigoter sur certains matchs, mais globalement, ça va. C'est pas le pire gardien de Ligue 1.
Si le gardien de but est une priorité, va Lopez.
Ouais, tu le vends. Parce que là, tu le vends.
Si le gardien de but est une priorité, tu vas Lopez. Tu ne le gardes pas. Parce que, il ne restera pas. Pour moi, lui, personnellement, il n'aura pas cette envie de vouloir être numéro 2 ou en concurrence. Un coup, je joue. Deux coups, je ne joue pas.
Tu le vends. On ne peut pas leur proposer un échange à Séville.
Avec qui?
Bounou Lopez.
Oui, je ne sais pas.
Lopez qui aura tout fait pour être en Ligue des Champions si ça va jouer à Séville. Alors là,
Attends,
le comble des combles.
Si Séville gagne la Ligue Europa, ils sont en Ligue des Champions.
Oui, d'accord.
Il y a aussi cette condition-là. Mais bon, on essaiera de voir. En tout cas, n'hésitez pas à aller sur leur site Lyon d'Atlas. Il y a le lien. Je vous le balance comme ça. Vous pouvez aller voir l'article original d'Hakim. Voilà.
Très bien. Je voulais juste terminer sur un petit truc. Veretout, plus gros salaire de l'effectif. On a vu les salaires publiés par l'équipe. Joueur qui a eu un moment dans la saison, là, début 2023, ou même les derniers matchs là, avant la Coupe du Monde, où j'ai trouvé vraiment un très haut niveau. Buteur, un peu partout sur le terrain, etc. Alors qu'au début de saison, j'ai trouvé très poussif. Là, je trouve qu'il retombe un peu dans ses travers.
Ouais, je suis d'accord.
Il n'est pas mauvais. Mais là, en ce moment, il ne justifie pas son énorme salaire, l'investissement du transfert et le rôle de titulaire indéboulonnable. Je le trouve un peu moins bon. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ?
Je suis de ton avis et je pense qu'on le voit moins parce que tu as Rongier qui comble.
Ouais, c'est ça, mais.
Eh oui, tu as Rongier qui fait la balance.
Quand Rongier faisait vraiment le travail défensif, lui, il se projetait dans la surface. Ouais.
Les pertes de balles faciles. Il récupère moins de ballons. Tu vois, il se projette moins.
Il est plus loin de la surface.
Il y a aussi des erreurs, je veux dire, de passe technique qu'il ne faisait pas il y a quelques semaines en arrière. Et là, bon, après, ça ne lève pas toutes ses qualités.
Non, bien sûr. Moi, je ne dis pas que c'est un mauvais joueur.
Mais justement, tu en parlais, c'est vrai qu'on a, quand on a fait la critique de joueur, on le trouve un peu moins bien que ce qu'il était.
Et quand c'est le plus gros salaire de ton effectif, c'est censé être un tes leaders, un mec. Et il a le statut. Mais je trouve qu'il n'a pas toujours le niveau. Et on parlait de Guendouzi. Moi, j'aimerais bien de temps en temps voir Guendouzi le mettre sur le banc. Parce que Guendouzi, il n'a pas du tout le même jeu, mais il a un jeu plus direct qui peut être intéressant. Toi, tu estimes qu'il est un peu en deçà en ce moment, Veretout ? Tu trouves qu'il a encore un super niveau ?
Je ne sais pas. Peut-être que ça se voit aussi parce que l'effectif ronronne un peu. On a quand même du mal à avoir des occasions. Et peut-être qu'en effet, on attendrait que Veretout soit un peu plus ça. Oui, en effet, je pense qu'il est
décisif.
Soit plus décisif. Donc en effet, il n'est peut-être pas transcendant. On voit plus Rongier sur le côté sur tout le côté
relance,
défensif.
Récupération.
En effet, voilà. Mais je pense, honnêtement, il fait ses matchs. Il passe rarement à travers. Oui. Après, à sa décharge, je rappelle quand même qu'il doit marquer un but samedi. C'est juste qu'après, il y a Samba qui...
C'est
une très grosse parade. On dit qu'il n'est pas décisif. Après, voilà.
C'est qu'il y a cette frappe juste avant la mi-temps.
Après, je ne juge pas, mais
je dis pas qu'il fait un mauvais match. Mais en tant que leader de vestiaire, j'attends que ce qu'il soit comme il était en janvier-février, où là, il était vraiment au top. J'attends ça tout le temps, en fait. Et là, je trouve qu'il rebaisse un peu. Et ça manque. Parce que ses projections dans la surface, où il avait marqué quelques buts importants, à finir des actions, là, on le sent un peu moins libre, un peu plus en maîtrise, etc.
Est-ce que c'est pas dû au fait que les deux de devant soient plus en difficulté,
aussi.
Je sais pas. Donc,
puis à côté aussi, il y a aussi Tavares qui a
complètement plongé. Tavares, c'est ça. Ouais.
Bon, on a fait le tour, messieurs.
Ils ont fait beaucoup d'efforts. Hein.
Oui.
Les deux récupérateurs, ils ont fait énormément d'efforts.
Il y a une stabilité. Ouais. Ça, on peut pas l'enlever.
Non, mais ouais. C'est pour sûr. Ça, en fait. Hein, des gars comme ça, souvent, ils te colmatent des trucs.
Obscur.
Ouais, voilà, ouais.
C'est du replacement.
Ça comble.
Tu connais le poste.
Sérieusement, il suffit pas que de courir. Des fois, tu fais des décalages sur un côté, tu te mets entre deux joueurs, ça permet de canaliser l'adversaire.
Oui, c'est ça.
Tu vois, donc, nous, si tu analyses vraiment, que tu te penches sur le joueur,
oui, tu le
que
suis tu vraiment.
Que ça, ouais. Tu vas voir ce qu'il fait, ce qu'il produit, en fait.
Ah, moi, je dis pas
c'est, ce qu'il produit. Et ce qui soulage l'effectif. Ouais. Mais c'est vrai que.
Il peut faire plus pour moi. Voilà. Il peut apporter plus.
Sa qualité peut t'apporter
c'est
plus.
Des postes où, c'est des postes où ta performance dépend énormément de celle des autres. Quoi, voilà. Parce que voilà, si les autres sont mauvais, tu vas passer ton temps à compenser leurs erreurs. Donc tout va sembler normal au grand public. Et au moment où toi, on va te dire mais mec, qu'est-ce que t'as fait là? T'as pas fait la passe? Bah, en fait, tu viens de te farder. Tu viens de sauver 10 fois Tavares, 3 fois Balerdi et peut-être 2 fois Winder qui a fait une perte de ballon inutile. Quoi, donc. Voilà, c'est pour ça que je demandais si c'était pas dû aussi au fait que les deux de devant soient peut-être moins bons ou autre.
Voilà. Rien de dernière question ou c'est bon?
Si, peut-être sur Aulas. Il y a Kit qui dit voilà, un petit mot quand même sur Jean-Michel Aulas, certaines de ses interventions dans le foot.
Le padawan de Bernard Tapie.
Voilà, ne font peut-être pas l'unanimité, mais comme Tapie, voilà, il a fait quelque chose dans le foot français. Son temps était venu pour passer le flambeau. Chapeau, Jean-Michel Aulas. Bon, voilà, c'est Kit, c'est bon, le message de Kit. Ouais. Mais certains qui n'étaient pas forcément d'accord avec ça.
Moi, ce que j'aimerais, c'est que Jean-Michel Aulas, ce qu'il a pu faire à Lyon, le fasse à la Fédération ou à la Ligue. Pour aider le football français.
Moi, je suis moins à fond que toi parce qu'il fait quand même partie de toute la clique de Noël Le Graët. Il était dans le COMEX avec Noël Le Graët. Moi, tous ces gens-là, j'aimerais bien qu'il
soit
nettoyé.
Mais c'est ce que c'est que le football, sincèrement. Oui, rappelez-vous quand on parlait de président chez nous, que si on avait un président comme Aulas.
Non, mais ça, on est d'accord.
On aurait fait. Et je pense qu'il connaît le football.
Aulas, il a construit un club avec le propriétaire de son stade, etc. Je ne remets pas tout ça en question. Moi, ce que je veux dire, c'est que la Ligue, moi, j'aimerais bien que ça soit neuf.
Ouais,
mais vraiment
je suis
neuf.
D'accord aussi.
Pas reprendre les mecs qui étaient déjà là et qui ont validé un président complètement à l'ouest, pour être gentil. Et qui n'ont rien fait pour arrêter ça et qui vont se pointer comme ça.
Moi je pense que son temps, voilà, il était temps qu'il passe la main. Il le fait un peu mieux que Le Graët, quand même. Voilà. Mais bon, voilà, je pense que ces derniers temps, quand même, c'était compliqué pour lui aussi. Oui, non, mais il n'a pas eu trop le choix, on est d'accord. Mais voilà, ça se finit un peu mieux que Le Graët. Donc, mais j'ai envie de dire, c'est des vieux monsieur. Quoi.
Il a peut-être récupéré la Ligue féminine.
Ouais, je sais pas. Je suis plus de ton avis. Est-ce qu'il faudrait pas mieux, une nouvelle génération, le monde change vite, le foot, mais surtout le monde en fait. Et ces gens-là, je pense, sont encore un peu dans un monde qui n'existe plus. Mais,
ouais. Juste sur le football féminin, puisque tu es lancé, c'est bien dommage que les droits ne soient pas achetés. Rappelez-vous tous les efforts qui ont été faits pour ce football féminin.
Bah, c'est sur Canal.
Cette équipe de France.
Ça y est.
Féminin. Mais ça
je crois qu'il y a des problèmes.
Non, pour la Coupe du Monde là.
Ah, pour la Coupe du Monde.
Oui. La Coupe du Monde n'a pas les droits n'ont pas été achetés. Donc il y a eu énormément d'efforts faits par toutes les fédérations dans le monde entier pour que le football féminin puisse un petit peu refléter et gagner un petit peu de notoriété. Et aujourd'hui, on se rend compte que la Coupe du Monde qui arrive, il n'y a pas de preneur.
C'est étonnant.
C'est bien dommage parce que
même le football féminin, il y a beaucoup plus de licenciés.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a beaucoup de clubs amateurs qui mise aujourd'hui sur les filles et sur le football féminin. Donc, si on construit quelque chose à la base, et quand tu arrives au sommet, on te dit qu'il n'y a plus rien, c'est un petit peu désolant.
Mais c'est le constat du sport féminin, quoi. C'est qu'on en parle beaucoup, mais c'est que c'est encore... Il y a zéro sponsor.
C'est un peu de l'esbrouf, quoi.
On pourrait parler du cyclisme. Il y a de plus en plus de courses pour les femmes. Maintenant, quand tu as des organisateurs de bonne volonté qui essaient d'organiser quelque chose, ils te disent... les sponsors, ils sont pas là. Oui. Voilà. Et pareil pour les. On pourrait aussi parler des documentaires sur le sport féminin que les chaînes télé veulent bien prendre, mais à condition que ce soit gratos, quoi. Voilà, des choses comme ça. Bon, donc.
C'est intéressant ce que tu dis. Voilà. C'est des précisions. Pour terminer sur Jean-Michel Aulas, il y a eu beaucoup d'hommages de Benzema, de Makelele, mais il y a aussi quand même notre ami Belarfa qui est toujours aussi taré,
HBA.
Qui a quand même dit tu ne vas pas manquer au football. Au revoir.
Petite réaction supplémentaire d'ailleurs à tout ça, parce qu'il y a notamment José Anigo qui était sur Facebook qui a parlé de ça et qui a répondu un peu à Atem Ben Arfa sur Facebook. Il dit: je peux pas croire ce que je lis de la part d'Atem, je suis un pur Marseillais, mon cœur sera toujours pour l'OM, mais pour connaître un peu Aulas, cet homme a été et restera pour longtemps un exemple comme président de club. J'ai du respect pour lui en tant qu'homme. Aussi, il a toujours défendu son club bec et ongle et
Il voulait nous piquer Ribéry.
Ouais, construit ce club au fil des années. Mais l'ingratitude, mon ami, est omniprésente dans le foot. On est bien placé pour le savoir. Il répondait du coup à Frédéric Guerra. Voilà, sur
L'agent.
C'est ça, l'agent, pardon.
J'ai c'est une page précisé. Qui tourne, si on ouais. veut. Enfin, ouais. voilà, si, ouais, si oui. c'est de résumer. Une page se tourne, il fallait qu'elle se tourne, mais oui, ça a été un grand dirigeant, et maintenant, ben, place à autre chose, quoi.
Et déjà, ces dernières années, c'était un peu plus compliqué pour lui, on va pas se mentir, les choix sont moins précis, on va dire. Et moi, j'ai un petit peu peur pour... Enfin, j'ai un petit peu peur. Trop peur, quand même. Mais Lyon vient d'être vendu, quand même, à un homme d'affaires américain, qui a acheté en majeure partie, c'est pas son argent. On a vu ce qui s'est passé à Lille, on a vu ce qui s'est passé à Bordeaux, avec ce genre de montage financier. Attention.
Oui, bien sûr.
Ouais. Attention, c'est, moi, Lyon, je ne vais pas pleurer s'il descend en Ligue 2. Mais pour le football français, je trouve que ça devient un peu trop dangereux. McCourt se fait beaucoup brocarder, mais jusqu'à présent, sauf si c'est d'argent saoudien, on sait ça.
J'allais faire la blague en plus.
La blague.
C'est ça,
mais jusqu'à présent, il a quand même remis au pot, et au moins, c'est son argent en plus. Même si il a fait des prêts.
Sérieusement, j'allais dire, est-ce qu'on se rend compte que finalement, à l'OM, on a de la chance d'avoir un propriétaire qui est là, et voilà, pas un fonds d'investissement, et d'avoir un président comme ça aussi. Voilà, donc il faut s'estimer heureux. Quoi. Qu'on soit deuxième ou troisième en fin de saison.
C'est ça. Messieurs, merci. Merci Gaël d'être venu. Tu repars un petit peu à la course.
Ça va, tranquille, ça va. Cette semaine, ça va.
Semaine un petit peu plus tranquille. Ouais. Merci Jean-Charles.
Eco.
Tu pourras refaire un petit resto à Cassis la prochaine fois. Ryan, on se retrouve quand ? On se retrouve jeudi.
C'est ça, jeudi pour un nouveau débat foot Marseille, pour parler du match face à Angers, c'est ça. Et puis voilà, je voulais d'abord remercier aussi un petit peu les subs. Merci à FC Peperizzo, merci à Defcon, merci à Lichre, merci à Cheshire, merci à Ikikto, merci à Sunzu pour vos subs aujourd'hui. Donc voilà, merci à eux.
Demain, pas de débat fac. Désolé, j'ai les rendez-vous perso. Je ne peux pas satisfaire toutes vos questions, mais je serai là la semaine prochaine.
Peut-être un petit live de ma part. Je verrai.
Ryan prendra peut-être la relève. Merci à Manscaped, notre sponsor. Et on se retrouve donc jeudi. Ciao, bonne semaine.